dans le tempo. Vous êtes dans le podcast des passionnés de musique, épisode 57. On y va. Bienvenue dans DLT. Tous les 15 jours dans cette émission, on explore le fantastique, le riche, le passionnant univers de la musique. C'est français vrai. Ce que j'ai dit, ouais, ça va
Au départ, non.
C'était bizarre.
Au milieu, bof, mais en fait, ça va.
Ouais, je m'en suis rendu compte.
Non, mais ça fait sens.
Comment vas-tu?
Ça va super bien.
Tu as passé toute la semaine à écouter des morceaux en disant « Ah, ça, je vais le sampler sur ma MPC ».
Alors, tu vas blaguer.
Oui. C'est ce que t'as fait. Mais voilà, mais c'est ton rapport à la musique est exclusivement lié à ta MPC.
Tout à fait. Tout à fait. C'est l'outil qui drive l'utilisation globale et la consommation, et je trouve ça plutôt cool.
Oui, tu vois. Mais bizarre.
Non, pas forcément. disons que voilà, il y a toujours une petite entache de fond, il y a un petit truc qui fait est-ce que ça serait pas découpable et time stretchable à l'infini?
C'est peut-être quelque chose avec lequel notre invité se sentira connecté, le rapport au sample, je sais pas. On va en discuter. Tu sais quoi? Avant que je le présente, je suis très content parce qu'on avait dit en début de saison qu'on voulait recevoir plus d'artistes. Parce qu'on reçoit beaucoup de professionnels de la musique.
C'est vrai.
Et on voulait plus d'artistes. Et on vient d'enchaîner Timmer, Altarba. Et cette semaine, on reçoit Molécule.
Bonjour.
Salut Romain.
Bonjour.
Ça va ?
Très bien.
Merci beaucoup d'être avec nous.
Merci pour l'invitation.
C'est avec plaisir parce que je suis heureux de te recevoir. Tu es un artiste plutôt passionnant. Ta carrière est jonchée de tentatives, d'expérimentations, de recherches esthétiques différentes.
Ça, on aime bien, nous.
On aime bien ça. Ouais. Mais j'aime bien, en fait, c'est les gens un peu curieux, un peu touche-à-tout.
Ouais,
et tout,
globalement. Ouais, c'est vrai.
Et Romain s'inscrit là-dedans, avec son projet Molécule, parce que, non seulement donc, plusieurs esthétiques musicales, au mélange à la fois de dub, de hip-hop aussi à un moment, de musique très électronique, de musique club, et parfois plus expérimentale, et surtout, grand voyageur aussi, avec l'idée parfois de lier tes projets musicaux à des expériences de vie, de les retranscrire à travers ta musique, notamment en captant aussi du son sur place dans les environnements dans lesquels tu vas te trouver. Et je trouve ça assez passionnant. Ça te va comme présentation? C'est à peu près ça, on y est?
Écoute, c'est très bien.
En tout cas, Daz, on rigole parce qu'on vient de la refaire parce qu'il y a eu un bruit infernal dans la bouclette. Mais on recommence. Je disais qu'on découvre Molécule en 2006 avec deux albums qui sont donc Part of You et In Dub et non pas Dubin, où tu t'inscris vraiment. Moi, j'ai été étonné en fait parce que je connaissais ton travail d'après et dans cette culture dub vraiment et que j'avoue que je maîtrise assez peu. Donc j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Et puis derrière, tu vas enchaîner les albums. Un peu moins d'une petite dizaine d'albums, on est quoi, 8 à peu près
ça doit être ça, j'ai pas compté exactement. Il y a des albums qui sont à moitié sortis, que en vinyle. Il y a des projets un peu spé, des BO qui traînent.
On dépasse peut-être la petite dizaine alors, possible, ouais. Si on rajoute. Puis des EP, etc.
Comment on à moitié sort un album?
Eh ben, on le sort comme il y a 2 ans, un projet que j'ai fait sur un phare à Thévenec. On a pressé 500 disques. Et voilà, ils ont été vendus assez rapidement. Et l'album n'est pas sur Internet, donc il existe pour 500 personnes. On le mettra peut-être à disposition, mais il y avait la volonté de sortir un peu des sentiers battus et puis de le rendre rare et différent. Et c'est vrai qu'avec le streaming, il y a un côté disponible à tout moment quand on veut, où il peut y avoir un côté un peu indigestion de trop de choix.
Trop de contenu,
et donc de jouer aussi un peu sur la rareté. Le projet s'y prêtait en plus, donc on a fait ce choix à l'époque.
D'accord.
Ce qu'on va faire dans cette émission, c'est retracer une partie de ton parcours pour comprendre un peu à la fois tes influences et la musique que tu fais, puis les expériences que tu as vécues, avec aussi une partie, parce que c'est un truc qu'on aime bien dans cette émission, c'est parler un peu aussi de comment on avance dans une carrière en tant qu'artiste, comment on s'entoure, etc., comment on arrive à vivre aussi de sa musique, tout simplement. Mais avant qu'on aborde toutes ces parties, quelques petits extraits musicaux de ce que tu fais. On peut commencer, tu avais envie qu'on écoute le morceau Fallujah, notamment, qui est sur quel album? Ça sort quand à peu près?
Fallujah, c'est sorti en 2011 sur l'album Climax. Ouais. Et c'est un peu le symbole de cette période hip-hop, dub, qui a été le début de ma carrière. Mes premiers albums ont été dans cette veine-là.
Très bien. Et bien, on s'écoute Fallujah. We bought Fallujah, we got Fallujah. Sing hallelujah, cause we got no time for losers, strictly world rules. là, on y est complètement, on a le rythme. C'est ta culture, ça, à la base, vraiment, ça, le dub.
Bah, ça fait partie de ma culture.
Ouais.
Et avec ce mélange hip-hop, c'est le MC Promoé, qui est un MC suédois, que j'ai rencontré parce que je travaillais à l'époque avec un manager qui était aussi le manager de Science Super Crew, okay. Le groupe de hip-hop.
D'ailleurs, tu as bossé avec Leroy, si je dis pas de bêtises, régulièrement.
J'ai bossé avec Leroy, effectivement. On a fait pas mal de morceaux et de projets à un moment, avec Fefe aussi, un peu, du Saiyan. Et ouais, c'est vraiment cette période-là, milieu des années 2000-2010. Et il y a eu un virage qui s'est un peu opéré quelques années après, beaucoup plus électronique, jusqu'à ce départ en bateau en 2013, en plein milieu de l'Atlantique, qui a été un tournant dans ma carrière.
Alors, on va s'écouter maintenant l'extrait de Scylla. Alors, c'est sur l'album d'après, si je ne dis pas de bêtises.
Là, c'est,
tu pars dans le Grand Nord, là, cette fois.
2017. Ouais. Et c'est un morceau qui a été composé sur la banquise au Groenland, sous le cercle polaire.
Allez, Scylla. J'avance un tout petit peu. On voit tout de suite le, non pas le revirement, mais en tout cas le désir de faire une musique beaucoup plus électronique.
Ah oui, là c'est moins dub. Hein.
Ouais. Même si le dub a aussi une culture électronique, mais
le dub c'est un peu une approche du son de prendre le son comme une matière et de la faire passer dans des effets, dans des filtres. Et y a toujours cette couleur-là dans tous les projets. Mais surtout, le virage, ça a été de faire de la musique instrumentale et de plus collaborer avec des artistes vocaux. Pour mettre le son et la musique au premier plan. Ça, c'est un virage que j'ai fait en 2013. Donc c'était vraiment volontaire, même si là, je suis un peu revenu avec ce dernier album qui est sorti il y a un mois, RE201, où je suis reparti en Jamaïque, travailler avec des chanteurs légendaires du reggae jamaïcain.
Et il y a notamment ce morceau Joy avec Big Youth. On s'écoute un extrait.
Avec plaisir.
Il y a un aspect très house en fait dans ce morceau. House
tout à fait.
Tout. C'est un truc que tout tu voulais. Fait.
L'idée c'était de mélanger une inspiration qui a été forte pour moi à mes débuts, la house filtrée des années 90, French Touch, avec ces voix jamaïcaines. Donc je voulais vraiment tenter le pari de mélanger ces deux univers. Et ça partait aussi d'une envie, tout simplement, de collaborer avec des artistes de la French Touch et de rencontrer ces chanteurs légendaires en Jamaïque.
Et notamment, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, un featuring avec DJ Falcon.
Oui, j'ai travaillé un titre avec DJ Falcon, j'ai travaillé avec Étienne de Crécy sur un autre titre, ouais. Avec Hubert Boombas de oui, Cassus oui. aussi ouais. sur un autre titre. Et puis pour les collaborations vocales, il y a Johnny Clark, il y a Big Yos, il y a Prince Salah, Ja Thomas, Leroy Orsmus Wallace, qui sont voilà, c'est pas les artistes les plus connus jamaïcains. Je ne sais pas si vous les connaissez d'ailleurs.
Pas du tout. J'ai eu des lacunes terribles en reggae, en reggae ouais. etc.
Alors eux, c'est des chanteurs reggae vraiment fin années 70, début 80. Ils sont assez âgés. Et voilà, j'avais envie de les rencontrer. Moi, c'est des chanteurs qui ont bercé mon adolescence. Et c'était... ouais, c'était un peu un rêve de collaborer avec eux, de les amener comme ça sur en plus une musique qui reprend pas leurs codes.
Ouais. C'est assez chouette. C'est des artistes qui sont encore actifs aujourd'hui ou...
Ouais, c'est des artistes qui sont encore actifs, qui tournent encore pour la plupart d'entre eux. C'est des artistes qui ont une carrière un peu en dents de scie. Ils sont dans le reggae aujourd'hui, c'est un peu plus difficile qu'il y a quelques années. Ouais. Donc ils tournent moins. Mais c'est des gens toujours très actifs et qui ont une jeunesse, c'est assez, moi j'ai été frappé par ça, malgré leur âge assez avancé, ils ont une âme d'enfant, c'est des grands joueurs, j'ai des souvenirs avec Leroy Orsmus Wallace, on a vraiment l'impression que c'est un jeune ado qui a une énergie dingue. C'est assez chouette, c'est une petite leçon de vie en fait, de garder cette fraîcheur à leur âge. Ouais. D'être ouvert aussi à des projets comme celui oui, que tu leur as apporté.
La question justement, c'est, ils t'ont demandé quel style t'allais faire avec, quand tu vas collaborer avec eux, en fait, t'as expliqué un peu le projet, le concept, la couleur que tu voulais donner, le style musical.
Je précise juste d'ailleurs, parce qu'on sait que la collaboration aujourd'hui peut beaucoup se faire à distance, toi en l'occurrence tu es allé sur place.
Oui, je suis allé sur place, alors j'ai fait un test à distance avec Johnny Clark. En fait, tout se joue sur le fixeur que t'as sur place. Ouais. Pour rencontrer ces gens, faut pas passer d'agent à agent en leur disant voilà, j'ai mon artiste qui aimerait faire un album, il y a une chanson avec toi. J'ai eu la chance, de par mon passé dans le milieu dub en France, de connaître des gens qui connaissent des gens. Et on m'a passé le contact d'un gars qui s'appelle Bravo Gaylor à Kingston, qui a un petit studio et qui connaît tous ces artistes-là, qui a fait des projets, qui a été tourman pour eux quand ils ont fait des tournées en Europe. Donc le gars, il est habitué à travailler avec des Européens occidentaux. Mmh. Et en même temps, il est à Kingston, dans le ghetto, et il travaille avec eux quotidiennement. Il faut savoir aussi que dans la culture jamaïcaine, il y a cette culture de la mixtape, où tu peux demander à un chanteur, moyennant finance, de faire quelques mots au début ouais. de ton mix pour ambiancer
drops,
ou pour faire un faire-part d'anniversaire. Où, ils ont cette culture-là. Donc, ils sont habitués à venir en studio et à faire des choses. Donc nous, on a calé des sessions avec le contact que j'avais à Kingston et la rencontre elle se fait sur le moment, sur place. On fait écouter les démos, moi je suis arrivé avec mes démos qui sont assez fidèles à ce qu'on vient d'entendre là, notamment sur le dernier titre Joy, et ils posent dessus 20, 30, 40 minutes selon l'inspiration du moment. Et puis après l'idée c'était de prendre des petits bouts, en fait c'était de se créer ses propres samples. Je voulais pas faire de la chanson. Donc c'est pas du tout un album de chansons de reggae où il y a des couplets, c'est plutôt des petits bouts de phrases, des petites ambiances qui sont retravaillées un peu avec le process que j'ai mis en place ces dernières années sur mes dernières aventures que j'ai appliqué à un album de studio. C'était important pour moi aussi à ce moment-là de ma carrière de faire un vrai album de studio. J'avais envie de ça. J'avais envie de mettre la musique en premier
après
plan.
Après avoir déporté le studio dans plein de lieux différents, tu voulais vraiment le studio classique, entre guillemets, le lieu de composition plus ancré dans un territoire, je sais pas.
Ouais, tout à fait. Et puis parce que j'adore le studio, en fait. J'adore le matos, j'adore travailler en studio, j'adore collaborer aussi avec des gens, ça me manquait un peu. Mes derniers projets au Groenland, sur la vague de Nazaré, sur le Vendée Globe, sur le bateau, quand je suis parti plus d'un mois en pleine mer faire un album, c'est des projets qui sont très solitaires. Mmh. Et c'est des projets que j'apprécie, mais là j'avais envie de faire un vrai album de studio, de collaboration, pour peut-être mieux repartir en solitaire après. C'est pas un album qui marque un deuxième virage. Mmh. C'est plutôt une parenthèse de plaisir. Je voulais aussi faire un projet plus solaire, plus simple d'accès, et plus mettre vraiment aussi. Plus dansant et mettre la musique au premier plan. Mmh. Moi, j'aime beaucoup les concepts. J'aime bien prendre aussi le contre-pied d'aller là où on m'attend pas forcément. Et voilà, je trouve que c'est arrivé vraiment au bon moment. Mmh. Cette étiquette d'aventurier du son, de pionnier de la musique électronique nomade, ou voilà, c'est un peu des étiquettes qui me colle un peu à la peau ces derniers temps, et j'avais envie de un peu de surprendre aussi et de faire un album de studio avec une belle tournée, je dirais presque de manière standard et traditionnelle. Donc c'est un album assez classique pour moi.
Ce que je vous propose,
attends, parce que on est passé peut-être un peu vite sur le fait que tu as enregistré un album au milieu de l'océan tout seul.
Mais ça, on va en parler, Daz.
D'accord.
On va reprendre tranquillement, bien sûr.
Non, c'est normal, toi.
C'est évidemment passionnant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire peut-être une première partie. On va parler un peu de tes influences dub et hip-hop, et notamment pour nous aider à un peu mieux comprendre cette culture, parce que j'avoue que moi, j'y connais pas grand-chose, honnêtement. Mmh. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, on s'arrêtera un peu plus sur les parties plus concept, notamment avec les défis techniques auxquels tu t'es heurté. Le fait aussi que tu parles d'étiquettes, que parfois on peut être peut-être réduit à des concepts aussi, que dans une démarche artistique, ça peut questionner, je sais pas, on en discutera.
Il faut pouvoir être réduit à quelque chose de simple, à une étiquette, je pense.
Et ben on en parlera. Et puis voilà, cette dernière partie, un peu plus l'aspect carrière, mais commençons vraiment sur la culture dub, sur ses liens éventuels avec le hip-hop aussi, en tout cas toi tu as cherché à mêler ces deux univers. Tu te rappelles comment tu découvres cette musique, à quel moment tu te dis j'ai envie de faire ça?
Alors c'est pas la découverte du dub qui m'a motivé à faire que de la musique. Okay. Moi, mes racines, elles sont plutôt du rock. Je suis de la génération grunge, de Nirvana, de Massive Attack. Et mes albums de chevet, c'est Pink Floyd et certains disques des Stones. J'avais vraiment ce bagage-là. Ce qui m'a foutu une grosse claque, c'est Homework des Daft Punk. Mm-hmm. Et avec toute cette idée que on peut désormais, avec la MAO, donc fin des années 90, faire de la musique chez soi et sans passer par un grand studio et sans avoir surtout un producteur, un label qui t'autorise finalement à faire de la musique.
Tu avais déjà conscience de ça quand tu découvres ça? T'étais déjà un peu dans l'univers musical ou...
Bah, c'est une génération.
Plus autoproduction, enfin, du moins home studio, maison.
Bah, c'est une génération en fait, parce que c'est. Moi, je suis arrivé dans le sillage des Daft, d'Étienne de Crécy, des Cassius, de R. Et eux, ils l'avaient déjà compris et ils étaient déjà là-dedans. Alors, même s'il y avait quand même certains liens avec. L'industrie de la musique, il y en a qui étaient fils d'eux, qui avaient déjà accès à ces studios. C'est des gens qui, avec une MPC et deux petites bidouilles, arrivaient à faire des danser et des albums qui sont maintenant des disques mythiques. Et ça, moi, je sais pas, je dois avoir 5-6 ans de moins. Quand j'étais au lycée, on s'est pris ça en pleine gueule et on se demande comment c'est fait.
Il y a un morceau qui, de cette veine-là, qui te reste encore aujourd'hui, qui est peut-être un de tes morceaux préférés dans ce genre, je sais pas, dont on pourrait s'écouter un extrait.
Bah, la claque à l'époque, c'était Da Funk.
Ouais.
Ce son, ça vient d'où? Moi, je suis guitariste à la base. J'ai commencé la musique en faisant de la guitare. Quand j'étais au lycée, je jouais de la guitare. On faisait des reprises de Nirvana, des Stone Temple Pilots, de Pearl Jam, de tous ces groupes-là.
D'Oasis.
Moi, Oasis.
Wonderwall.
Ah, peut-être Wonderwall, ouais.
Ah tout le monde l'a fait, c'est pas grave.
Ah oui,
pas
mais oui,
c'est
pas oui.
Et ce son des Daft, en fait, c'était. Ils ont réussi à cette époque-là à faire le croisement du rock et de la techno.
Ouais.
En amenant de la mélodie, en amenant des sonorités. Et moi, ce mariage-là, il m'a complètement embarqué. Et puis après, j'ai découvert. Mais toutes les racines de leur musique, eux, leurs influences, c'est Détroit, Chicago. Moi, c'est une musique qui me parle beaucoup moins. Une TR-909 ou une 808 brute de décoffrage avec un synthé tout simple, un preset joué, ça me touche pas.
C'est la house historique qui te touche moins ?
Non, c'est en termes de son. Ouais. Moi, j'aime quand il y a un grain et qu'il y a une approche du son qui est triturée, mais le son pur d'une machine, le son anglais par exemple en musique électronique, c'est un son qui me touche pas. Les Chemical Brothers ont fait des morceaux déments, mais je trouve qu'ils ont pas ce goût que les Français ont eu, que cette génération de la French Touch a eu, même dans l'harmonie. Le mouvement house en France, ils ont réussi à créer, il y a toujours un petit truc qui frotte, il y a une harmonie un peu plus riche, un peu dissonante, il y a un petit quelque chose. C'est pas des accords basiques, c'est des samples qui vont pas forcément ensemble, et puis ça crée quelque chose d'assez étonnant. Et moi j'aime la texture du son, j'y suis très sensible. Et ouais, donc ce morceau, quand il est arrivé, qu'est-ce que c'est, quoi ? C'est un ovni et...
Bon, c'est un grand classique, mais on peut quand même s'écouter un extrait. Ça fait jamais de mal. Daft Punk, de Daft Punk.
TB-303 qu'on entend à la fin, elle a un son
acide un peu.
Elle passe dans une disto, elle est travaillée, elle a un grain. Et c'est pas juste le son d'une TB-303 comme on entend dans la musique acide à cette époque-là en fait.
Ça me saute aux oreilles aussi à quel point c'est surcompressé.
C'est surcompressé et puis l'utilisation des samples. On n'entend pas la 909 là. Elle est là, c'est l'assise, mais c'est les samples, c'est la culture hip-hop aussi. On parlait des MPC un peu en off avant. Cette culture de la bidouille du home studio, en fait, tout simplement. Et ça, à cette époque-là, la prise de conscience, c'est qu'on entend une musique comme ça qui est démente, qui nous fait danser. On apprend que c'est une musique qui peut se faire. Avec les étrennes de la grand-mère et deux, trois petites bidouilles, et qu'on peut se le procurer. Go!
Oui, parce que avant d'influencer tout le monde, ils utilisent du matériel cheap, que tout le monde va vouloir justement s'approprier derrière, mais souvent c'était du matériel pas incroyable ou délaissé en
tout cas. Pas forcément cheap, mais abordable, quoi.
Voilà, pas cheap du tout même.
Non,
c'est cheap, plutôt des bonnes. Alors c'est une époque où
mais
je pense
pas,
que les machines
pas si cher
avaient.
Encore.
C'est pas si cher. Encore, c'était cher avant, parce que maintenant, c'est pas cher. Mmh. Maintenant, c'est juste si on veut se la jouer comme eux et avoir le matos qu'ils avaient, là, ça coûte cher. Mmh. Si on veut le MOOC de l'époque, ça coûte cher. Mais aujourd'hui, on peut... moi, si j'étais aujourd'hui musicien, je pense que j'aurais qu'un ordinateur, en fait. Sauf que malheureusement pour moi et surtout pour mon portefeuille, je suis obligé de faire de la musique, j'ai obligé de toucher des boutons et j'ai envie d'être accompagné, de ne pas être seul dans mon studio et d'avoir des machines qui ont du caractère, qui ont une personnalité, qui parfois ont leurs humeurs et veulent pas faire ce que je leur demande.
Il va falloir qu'on en parle parce que quand tu pars dans le Grand Nord avec les températures qu'il y a, je sais pas si tu avais du synthé à Nolo avec toi, mais je sais pas comment ils se sont comportés.
Il y a un morceau qui a été fait exprès à partir de tous les bugs et les dysfonctionnements de mes machines qui s'appelle Artefacts. Et effectivement, ça vit en fait ces machines-là. Et moi, j'aime ça. Mais c'est des choses générationnelles. Je pense que maintenant, il y a des gens qui font de la super musique juste avec trois plugs, un logiciel et une souris. Et ce qui compte, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est la musique. Mm-hmm. C'est pas la manière dont on l'a fait. Voilà.
Et pour reconnecter un peu au dub, ça arrive quand ? Après cette découverte de la vague French Touch, c'est...
Bah, le dub, ça, il y a aussi un mouvement dub en France très fort dans les années 90, fin des années 90, avec des groupes comme Zenzile, Hightone, qui sont très novateurs parce que c'est des gens qui viennent de la scène rock et qui jouent du dub en live. Donc ils ont, c'est un vrai groupe, batterie, basse, clavier, guitare, et il y a un DJ qui scratch, et en live, ils font des envois d'effets, ils s'auto-cut. Le dub, hein, en deux mots, juste quand même une petite référence historique, c'est dans les années 60, fin des années 60, King Tubby, qui a un sound system en Jamaïque, et donc ils enregistrent plein de gens qui chantent sur des instrus qui sont faites par des groupes, et ils pressent leur vinyle presque à l'unité pour les jouer dans les sound systems le week-end. Et lui, à un moment, il oublie de mettre la voix, la piste de voix, elle est mutée, et il la démute, et elle passe dans un delay. C'est une erreur. Et en gros, il s'aperçoit qu'avoir une version instru comme ça du morceau, juste avec des petits bouts de voix qui passent dans des delays, mais ça fait un truc assez dément. Et donc il s'amuse après à refaire ses erreurs, à travailler essentiellement avec de la reverb, du delay, écho, et à mettre les sons, les muter, les démuter, à faire vivre un mix. En fait, c'est un ingénieur du son qui devient un artiste. Mmh. Et c'est cette scène française fait ça en direct sur scène. Donc c'est des groupes assez déments qui m'ont aussi vachement, vachement influencé. Et à côté de ça, bah, il y a le reggae, la musique jamaïcaine, le son. Je reviens au son, aux textures. Mmh. Écoutez un disque de reggae des années 70, ça sonne comme rien d'autre peut sonner. Une timbale de batterie, les charlets, les mix sont complètement incohérents, les charlets peuvent t'agresser les oreilles, la basse est surdimensionnée, tu la mets sur ta chaîne, ça vibre, ça sature. Bon, enfin...
Donc c'est du, en fait, de base c'est du mauvais travail qui devient spécifique. Bien fascinant, mais...
C'est une culture.
Ouais.
Je pense que c'est une culture. Après, en ayant été à Kingston et en voyant comment ils font, c'est le système de la débrouille.
Ouais, c'est
ils
ça.
Font avec le matos qu'ils ont. Mais ça, pour moi, ça sonne en fait. Il y a pas de règles. Mais c'est sûr que si tu fais une formation à Abbey Road Studio en ce moment ou une autre. On va pas forcément t'apprendre ça.
Ouais.
Après, ça dépend du prof, parce que tu peux avoir un prof qui justement est
va
hyper ouvert
et
te dire qu'est-ce qui est à faire et ne pas à faire. c'est toujours un peu compliqué et délicat dans le son, en fait. Hein. Le son, c'est un peu l'invisible aussi.
Ouais.
Donc, on peut un peu tout faire.
Ouais, mais globalement, à chaque fois qu'il y a eu des breakthroughs au niveau du son, ça a toujours été des gars qu'on testait des limites, et qu'est-ce qui se passe si je fais ce truc-là à 150%.
Puis c'est vrai que l'erreur, t'as parlé d'erreur, et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup, je pense à la saturation par exemple pour la guitare, vient en fait de HP défaillant dans des amplis, ou fendu, etc., puis qu'on a essayé de reproduire ensuite derrière, et c'est souvent c'est vrai que ça vient de comme
la
ça.
La wah-wah.
Ouais.
Mmh. C'est pareil, c'était un ampli, moi j'avais entendu parler de cette anecdote, c'est un ampli... qui tombe à l'eau et puis qui du coup quand en se retournant ça l'eau fait le filtre des fréquences et donc on entend le son aigu puis le son mou complètement maté par l'eau et c'est reproduit après avec c'est une sorte d'équaliseur avec une résonance très forte et ça a un effet qui est maintenant qui a donné presque naissance à la funk au groove effectivement la distorsion maintenant on se pose pas du tout la question mais à une époque il fallait essayer d'avoir un son clean un beau son c'était un son clean Je pense que ce qui est bien quand on fait du son, c'est de maîtriser tous ces aspects-là et de le choisir.
Ouais.
De se dire, j'y vais là consciemment. Est-ce que ces sorciers du dub jamaïcain maîtrisaient ça avec le rhum et la fumette? Pas forcément, mais ils sont
c'est
habités.
C'est des plugins, hein, rhum et fumette. C'est des plugins.
Ils sont habités et c'est vrai. C'est authentique. Mmh. Et je pense que ça, en fait, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire, quand tu vis, quand tu incarnes un projet, un son, ça s'entend et il y a une part de magie dans le son et dans la musique. Et quand tu incarnes ça et que tu es dans le vrai, il y a quelque chose de fort.
On explorera dans une autre émission un jour, j'aimerais bien quand même l'univers du reggae, du dub, de la musique jamaïcaine même de manière générale, mais peut-être quand même pour illustrer un peu.
Je te coupe, je me permets, un de mes premiers producteurs qui s'appelle Thierry Arnold, qui a un label qui s'appelle Sounds Around, qui est une bible ambulante de ce mouvement-là, et qui est un mec génial.
Eh bien écoute,
voilà. Je vous le présenterai.
On en rediscute après l'émission. Mais peut-être quand même pour mettre un extrait sonore de ce dont tu parlais, de cette scène, tu parles à la fin des années 90 de français qui te marque. Est-ce que tu as un morceau là auquel tu penses et qu'on pourrait s'écouter?
Alors je pense oui.
Ouais. Mais t'as envie
il y a peut-être un morceau, ouais, tu peux peut-être essayer de mettre Blackboard Jungle, des Upsetters Blackboard. Donc ça c'est Lee Perry, qui est un disciple de King Tubby, et on entend déjà sons...
C'est connu ça.
Scratch Lee Perry a connu une reconnaissance tardive, mais en Europe, en tout cas en France, à un moment on a beaucoup parlé de lui à nouveau.
Alors il est venu habiter en Suisse à la fin de sa vie, mais après ça dépend de quel milieu t'évolues. Moi c'est quelqu'un que j'ai entendu très jeune. C'est un dieu, Lee Scratch Perry.
Ok, donc The Upsetters, Blackboard Jungle. Ouh, c'est tout pané à droite là déjà. Welcome to Blackboard Jungle. So don't you fumble.
Just be humble. Tout à gauche. Une porte qui grince.
Je comprends, tu voulais du grain, t'en as là du grain.
On voit le délire en fait. Ouais. Le gars, moi je l'imagine derrière sa table de mixage, avec un grand sourire, et il est habité quoi. Pour faire. Là, tu proposes un paysage sonore qui est complètement dingue, qui a un côté psychédélique. Barré, tu crées un vrai univers. On n'est pas dans du réel. Et le musicien finalement passe au second plan là, dans les choix qu'il fait, dans les effets, dans la manière dont il raconte son histoire. C'est un ingé son. Qui est un vrai artiste.
J'avance un petit peu dans le morceau.
Je crois pas que ça évolue énormément, hein, mais... À écouter.
Des choix étonnants, effectivement. T'as une idée de l'année à peu près à laquelle on est, là?
Alors ça, je dirais années 70, je dirais 70... 16, peut-être 13, okay. Je sais pas.
Mais là, c'est sur une compile, mais c'est la compile qui est de 88, mais le morceau doit être bien plus
ancien. Non, c'est avant Upsetters. C'est vraiment années 70, ouais. Et du coup, la scène française, tu peux mettre Aïtone, Delhi, Katmandou. Et donc, eux, c'est un vrai groupe, et ils jouent, et ils s'auto-dubent sur scène. Et t'as leur ingé son qui est... en façade et qui fait des envois de, en plus des envois de delay sur la batterie. Et ça, c'est hyper novateur. Il n'y a que les Français qui savent faire ça presque. Donc là, c'est un vrai groupe. C'est des vrais musiciens sur scène qui jouent, qui se créent leurs propres effets. Sur le son.
J'avance un petit peu. Non, alors là, il y a un truc qui est intéressant et qui peut peut-être nous permettre de faire le lien, toi aussi, avec ton rapport à toutes ces musiques. C'est qu'il y a le côté scratch. Alors peut-être qu'il y a une culture jamaïcaine du scratch. Moi, je l'associe forcément au hip-hop. Donc est-ce que justement, c'est qu'il y a un mélange qui naît à ce moment-là et qui, toi, te parle ?
Par rapport au hip-hop ?
Ouais, parce que là, on entend quand même des sonorités aussi qu'on peut affilier au hip-hop, tu vois.
Oui, il y a un DJ. Bah c'est, après, ça, c'est, je pense que c'est une époque. Mmh. À cette époque-là, tous les groupes avaient un mec qui scratchait. Ouais. Même les rockers. Tu te souviens ? Hein ? Parce que ça aime scratcher sur un groupe de rock. Les groupes de métal. Voilà, tout le monde avait son DJ.
Super, je précise juste Saïm qui est ton manager, qu'on avait reçu d'ailleurs dans cette émission.
Tout à fait.
Et qui est à côté de nous.
Et du coup, je pense pas qu'il y ait vraiment de lien avec le hip-hop là. C'est juste qu'à cette époque-là, il fallait un scratcher. Donc il y en a.
Mais toi, le hip-hop, toi, c'est quand ça arrive ? Parce que c'est une de tes influences aussi que tu revendiques.
C'est une influence que je revendique pas forcément. C'est, ouais. J'ai fait beaucoup de collaborations. Mmh. En fait, mon premier album, Part of You, donc en 2006, c'est un album de collaboration avec beaucoup de rappeurs. Mmh. Et j'aimais cette idée de mettre du flow sur des instrus. Je produisais des instrus à cette époque-là, un peu pour des groupes, pour d'autres gens. Et ça, voilà, ça s'est fait un peu naturellement par le milieu dans lequel je berçais à cette époque-là. J'ai toujours écouté du hip-hop, j'en écoute toujours, mais je suis pas vraiment connaisseur. Je peux pas me revendiquer vraiment de cette culture-là. La culture, c'est les Beastie Boys, c'est le Wu-Tang, quoi, Cypress Hill, c'est la culture mainstream, en fait, quand t'es lycéen dans les années 90. On écoutait ça et on écoutait Nirvana à côté, en fait. Mais je ne suis pas vraiment un connaisseur de hip-hop. Je ne peux pas me revendiquer comme ça.
Quand on parle de personnes qui font du reggae ou du dub en France, je m'interroge toujours... c'est une optique très actuelle. Hein, mais tu sais, parfois, on se questionne sur ce qu'on appelle l'appropriation culturelle. Et je pense, en tout cas, moi, j'ai parfois du mal avec ce thème, mais en tout cas, je trouve ce qui est intéressant, c'est de dire quel rapport on a avec les codes d'une musique qu'on reprend, et surtout à ce que ça signifie dans son contexte, culturellement, etc., dans le lieu d'où ça vient. Est-ce que c'est aussi un truc dont tu avais conscience très tôt, que ça avait une signification particulière pour une communauté particulière, ces musiques ?
Non, pas du tout. Moi, j'avance par envie, par intuition. Je me préoccupe pas trop de messages, ni de sens. Je me laisse guider, en fait. Et c'est un luxe d'avancer comme ça. C'est pas de l'égocentrisme, c'est une manière de fonctionner, et c'est aussi une manière de laisser tout ouvert, de rencontrer des gens d'horizons différents. Et l'appropriation culturelle dans la musique, j'y crois pas trop. Je pense que il faut mélanger, quoi. La musique, c'est le mélange, et c'est ça part de là, donc c'est inhérent, finalement, à la musique.
Je sais pas, toi, si t'as un regard là-dessus, Daz. Moi, parce que c'est un truc qui m'interroge beaucoup, ces questions d'appropriation culturelle, dont on parle parfois, c'est un sujet de société, en fait. Mm-hmm. Et je trouve que ça a énormément de sens lorsqu'on parle, par exemple, d'une industrie qui va reprendre des codes culturels d'un lieu précis, où les gens, d'ailleurs, souvent, sont pas forcément très riches, et vont exploiter okay. ces arts, par exemple, pour ensuite l'industrialiser et se faire beaucoup d'argent avec. Là, je pense qu'on peut parler très clairement d'appropriation culturelle, à des fins mercantiles.
Il y a une...
Mais après, c'est vrai que dans le cadre plus artistique, individuel, de quelqu'un qui est touché par une musique et qui a envie d'en reprendre des codes,
en fait, c'est
je
quoi,
pense,
c'est,
pense que ça a moins de sens.
Ouais. C'est utiliser des gimmicks, ouais. des choses que toi, tu considères comme étant... des éléments identifiables d'un certain style.
En fait, c'est un peu comme, si on reprend un exemple classique autour du rap, c'est de dire, moi je vais commencer à faire du rap alors que je n'en connais pas l'histoire, ni les codes, etc. Et que je peux d'une certaine manière en tomber dans une forme de parodie, ou pas comprendre que c'est une importance aussi quand même, pas politique, mais culturelle, et qu'il faut un minimum la connaître pour la respecter et bien faire les choses.
Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'on voit... partir du principe que les artistes, et notamment dans la rap en plus, dès le départ, quand eux ont créé des trucs, ils partaient avec ce délire de « on le fait pour la culture », c'est faux, les mecs, ils le faisaient pour graille, en fait, ils le faisaient pour l'oseille, pour l'argent, pour... Donc en fait, il y a... Non mais, il y a des...
Il y a des gens qui le font pour la culture. Il y a des gens
non,
qui
mais
ont,
tu le fais,
qui
tu
ont,
le
qui
fais.
Ont pas fait une thune dans leur carrière et qui continuent encore aujourd'hui.
Ouais,
après
tu
30
ouais,
ans.
Alors, on n'a pas tant que ça.
Oui, c'est vrai. Mais
tu
y en
le
a.
Fais. En fait, c'est vachement facile, je trouve, de rétrospectivement de dire ah bah oui, mais quand il le faisait comme ça, il savait qu'il était en train de poser les briques. De... Non, pas du tout. Le mec, en fait, il testait des trucs, ça faisait des sons, il aimait bien la sonorité. Il s'est dit bon allez, vas-y, je vais partir là-dedans. Tu vois, enfin.
Ouais, mais il y a un aspect communautaire aussi. Enfin, tu vois que tu crées quelque chose avec les gens parce que tu le partages en fait et que tu vois que ça a un sens.
Oui, mais en fait, quand tu pars aux racines du hip-hop et qu'en fait c'était le Bronx et Harlem qui se tiraient la bourre. Et enfin, tu vois, enfin. Les mecs, ils étaient limite en guerre de territoire dans la même ville, tu vois. Donc, en fait, le coup de Peace, Unity, Love, Having Fun, tout ça, c'est facile de le dire maintenant, tu vois.
C'est le côté Zulu Nation, ouais.
Qui a... Oui, il y avait ce truc-là, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, il y a des gars qui ont fait une carrière sur le fait qu'ils étaient en train de trasher le pont de Brooklyn, tu vois. Tu vois, t'as des mecs qui disaient, nous, on vient de Brooklyn, on est des bons, et t'as d'autres qui font, ouais, non, mais le pont, on va le briser, tu vois. Tu fais, wow, ok, les mecs. Donc, tu vois, enfin, il n'y a pas de. Moi, ce que je trouve. Super intéressant et à retenir, c'est en fait la spontanéité dans le truc. Si t'as envie de le faire, fais-le. Et si t'as pas tous les codes et tout l'historique et tout, on s'en branle. En vrai, on s'en branle parce que on est arrivé à l'ère de la post-parodie aujourd'hui. Moi, j'écoute des trucs de rappeurs officiels. Ça pourrait être un sketch des Inconnus, en fait. T'écoutes les lyrics, t'écoutes le son, tu dis waouh, mais là, les mecs, ils sont sérieux, en fait. Et oui, les gars sont. Premier degré, mais total, tu vois. Alors qu'ils te font un truc qui, ouais, que ça serait le rap des Inconnus, ou, tu vois. Et t'écoutes ces trucs-là et tu te dis, ok, en fait, on est au-delà de ces considérations-là, tu vois. Je pense au contraire que trop se poser de questions, c'est bien d'intellectualiser la musique, hein, mais trop se poser de questions, je pense que ça peut même te bloquer, te brider.
Ça, c'est possible,
à un moment donné. Hein.
Qu'est-ce que tu penses, toi, de tous ces sujets
Bah, je te l'ai un peu dit, moi, je suis assez d'accord. Il faut être spontané.
Cette naïveté, cette...
Et,
ouais,
et
la candeur,
il faut pas forcément savoir et se laisser, en fait, guider et faire. C'est le... Moi, je suis adepte de la manière de faire, c'est le faire qui donne de la consistance. Et c'est là c'est là où tu fais tes preuves, en fait.
Et en même temps, il y a une forme de paradoxe, ou peut-être que tu peux nous l'expliquer, mais en allant sur place, en allant à Kingston, en enregistrant sur place, tu as conscience qu'il y a quand même un terreau particulier et qu'il faut s'y connecter aussi pour bien faire les choses, non ? Ou je dis une bêtise ?
Bah, faut le faire humainement, en étant ouvert, en étant bienveillant, en étant sincère. Après, finalement, c'est le public qui juge aussi ça. C'est pas toi, quand t'es en train de faire les choses, t'essayes de les faire du mieux que tu peux et de les faire aussi avec respect. Donc c'est de l'humain, en fait, et c'est comme dans la vie de tous les jours.
Enfin, là pour toi, en l'occurrence, t'es parti en Jamaïque parce que les gens avec qui tu voulais collaborer, c'est des gars que tu crus, tu vois, c'est des mecs qui sont là-bas et que t'aurais pas possibilité
mais
de
vouloir,
toucher.
Vouloir ces gens, c'est parce qu'ils représentent quelque chose aussi pour toi, j'imagine, et qui va au-delà uniquement du son. C'est,
oui, c'est la culture.
Ils ont une importance aussi historique, culturelle, non?
Ouais, et puis personnel, parce que c'est des gens que je vénère depuis longtemps, que j'écoute, qui m'ont fasciné. Et dans une carrière, d'avoir le privilège de travailler avec ces gens-là, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Mais c'est...
Mais si ces gens-là, par exemple, t'avais pu les toucher en Suisse, tu serais allé en Suisse.
Mais évidemment.
Tu vois, en fait, c'est pas tant le truc de « il faut aller le faire à Kingston parce que c'est comme ça que t'auras la vibe », c'est juste que... Bah, les artistes que je kiffe, ils sont là-bas, donc je vais aller là-bas, tu vois. Mais s'ils étaient à Madrid, l'album, il aurait été produit à Madrid, en fait.
Mais de toute façon, la vibe...
Est-ce qu'il aurait sonné pareil ?
La vibe, elle est différente partout. Il y a une énergie différente, il y a une culture différente. On le voit bien, la musique en est un bon reflet. On peut identifier des pôles importants à travers le monde qui ont un son. Et ça, c'est un savoir-faire, c'est une culture. Et d'aller là-bas, de s'immerger dans cette atmosphère, ça a une incidence sur la musique, évidemment. Évidemment. Tu peux pas tout faire de chez toi comme si t'allais faire de la rumba ou du tango en Argentine. Enfin... Il y a un savoir-faire, il y a une culture, et ça, si tu vas pas à la rencontre de ça, tu passes à côté de quelque chose.
Est-ce qu'on peut, encore une fois, illustrer un peu tout ça avec de la musique, peut-être un extrait de ton dernier album, et puis en parallèle, un plus ancien, peut-être de ta première partie de carrière, entre guillemets, qui était très marqué par le dub, un morceau que tu aimes bien encore de cette époque-là?
Bah, je te parlais du morceau Call Me Back, ouais. On a parlé hip-hop, donc c'est un bon témoin, un morceau hip-hop que j'ai fait sur le premier album. Avec un artiste new-yorkais de Brooklyn qui s'appelle Webified.
Et ben, tu sais quoi, on commence avec ça, puis après on s'écoute un extrait de ton dernier album.
Hello? Hey baby, what's good? What's the matter? Why you sound like that? What's wrong with your voice? Why you? Well, ask me then, what's up? Yeah, go ahead. Anything, baby. You know I'ma tell you the truth. What's the matter? Just keep it real. What's going on? Oh. She's just this girl I know. Where'd you get this information? Where'd you get this information from? I know it doesn't matter, but I'm just asking you, babe. Baby, you know I'm on the road right now. I really can't talk. Give me 10 minutes to just get somewhere alone and we'll talk. Just call me back in 10 minutes, okay? Please.
I hung up the phone. I could tell by the tone. In her voice, she had a difficult choice. Hate me or love me, work it out or break it off. We've been together for 3 years, decisions cause repercussions that often lead to discussions. I start off with that, what if this and that happened, recover. Stolen moments, I'm guilty of grand larceny. The booty shoplifters can hide.
Très cool.
Old school.
Non, je trouve pas tant que ça en plus.
Le son est ça sonne actuel.
L'ambiance est
moderne, ouais.
Vachement moderne. Ouais.
Après oui, on est dans l'esprit boom bap, bien sûr.
Bah tant mieux.
Ça, c'est... Écoute le et tant mieux. Et est-ce qu'il y a un morceau, alors tout à l'heure on a écouté Joy du dernier album, qui vraiment s'inscrit dans ce côté dub, tu vois?
Ouais, house surtout.
Je parle un morceau dans l'album est très house, mais qui lui s'inscrit, parce que tu mélanges quand même ces influences jamaïcaines, on l'a dit, hein, où on sent vraiment cette influence là sur le dernier album.
Ouais, tu peux mettre Lonely qu'on a fait avec Étienne de Crécy. Il y a un passage très dub dedans, mais ça reste très électronique et très house. Hein. C'était l'idée, c'est-à-dire que la musique, les traitements des voix, des effets sont dub. Mais les références de production des instrus, c'est vraiment années 90 house.
Et c'est parti, Lonely.
Morceau avec Johnny Clark.
You let me be so happy. So I will never, never be lonely. I need your love, 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 love. I want your love, love, love.
Il y a un passage très dub.
Allez, c'est parti alors.
Je sais pas si. Voilà.
Et on revient sur le côté house filtré. Ça donne envie d'aller clubber tout ça.
Merci.
Donc là, Johnny Clark, il a posé sur ce son-là. Quand t'as capté quand t'as pris les voix ou il chantait au pif.
C'est une bonne question. Je crois que sur ce morceau, c'est un morceau que j'ai travaillé avec Étienne de Crécy à mon retour. Mm-hmm. En fait, j'ai fait des démos. On est parti à Kingston avec Sayem, enregistré sur ces démos, et je suis revenu avec toute cette matière et on a retravaillé après. En studio. Et là, sur ce morceau-là, l'instru a pas mal évolué parce que Étienne a mis sa patte, les mains dedans. Mais globalement, il a posé, oui, sur cette suite d'accords.
D'accord.
et j'avais préparé des versions One Drop. Le One Drop, c'est une rythmique particulière du reggae où on marque que le troisième temps d'une mesure, ce qui donne un côté beaucoup plus lent. Et donc j'avais fait des versions quand même One Drop au cas où.
Et au cas où il aurait du mal à...
Ouais, au cas où il y a un petit couac de ressentir le truc. Mais globalement, c'est des mecs qui respirent la musique. Dès qu'ils entendent une suite d'accords et un peu de rythme, et surtout une ligne de basse, il y a le sourire, ils dandinent et ils sont inspirés. Ouais. Il faut parfois même un peu les retenir et les cadrer. Mais il y a quelque chose d'assez sauvage, d'assez instinctif dans leur manière de dans le rapport qu'ils ont à la musique, en tout cas. Mmh. C'est pas réfléchi, quelque chose de très spontané, et d'où l'importance d'être sur place avec eux aussi pour capter cette spontanéité. Et je sais que le test qu'on avait fait avec Johnny Clark avant de partir à Kingston, le gars m'avait envoyé la prise, mais un peu il avait fait le propre, donc toutes les petites fausses notes, les imperfections, il avait enlevé ça, et c'est justement là où il y a une matière à très riche à prendre dans le projet en plus que j'avais en tête. Donc c'était fondamental d'aller sur place, de vivre ces moments-là. Rien que personnellement, en fait, ça donne une dimension à un projet complètement différente.
C'est marrant parce qu'on a fait d'une certaine manière une forme de boucle avec à la fois tes débuts, et puis là tu retombes avec le dernier album quand même dans cet amour à la fois de la French Touch, House Filtré et puis du dub. Mais il y a quand même toute une part aussi de ta carrière entre ces deux pôles. Tout est lié évidemment, on ne change pas radicalement, mais il y a quand même eu un désir conceptuel d'expérimentation un peu différent à un moment dans ta carrière.
On va parler du bateau là.
Et ouais, il faut qu'on en parle.
Voilà.
Donc, dans cette deuxième partie. Est-ce qu'on est d'accord que c'est vraiment en 2015 avec l'album 6043 Nord que vraiment tu te dis il faut que je parte enregistrer de la musique dans un contexte un peu différent?
Alors l'album est sorti en 2015, mais je suis parti sur ce bateau en 2013. Et mettre en place cette aventure, ça m'a pris 2 ans. Donc ça a commencé en 2011. Donc assez rapidement après ce premier album. Et c'est un projet que j'avais dès le début. Quand j'ai commencé à faire de la musique, j'étais étudiant, j'ai décidé de stopper les études assez soudainement en me disant il faut quoi, le meilleur moyen de vivre ta vie, c'est de la vivre à travers la musique. J'ai eu cette idée très forte qui m'est apparue. J'étais pas compétent à ce moment-là, quand j'ai fait ce choix-là, pas compétent au sens... je ne savais pas encore bien faire de la musique. Je savais que ça allait être dur, mais il fallait que je passe par là. J'étais convaincu qu'il fallait que j'en bave un peu. Donc j'ai fait ce choix-là. Je vendais des instruments de musique à piano chaud, d'ailleurs, où on faisait où je me tapais une fois par semaine les comparateurs de prix sur Audiofanzine. Je crois que certaines personnes connaissent ça.
J'ai l'impression, ouais.
Et je faisais de la musique à côté. Et j'allais faire écouter en maison de disque avec mes CDR à l'époque. Et mes premiers rendez-vous d'écoute, c'était des choses... c'était un peu honteux d'oser faire écouter ça. C'était pas du tout... c'était faux, c'était pas en rythme.
Ah ouais, à ce
mixé
point,
misérablement.
Mais t'as tenté quand même. En fait, t'avais pas le...
Mais j'y allais, et il y a des morceaux qui sont retrouvés sur mon premier album et qui étaient cool, mais qui étaient pas bien valorisés, en tout cas. Qui étaient pas dans la mise en forme. Enfin... Et quand j'ai fait ce choix-là, j'avais un petit rêve et une idée assez précise. C'était d'un jour partir sur un bateau avec tous mes instruments, mon home studio, parce que je faisais de la musique en home studio, installer mon home studio sur un bateau et d'aller derrière cette ligne d'horizon qu'on observe tous au bord de la plage, avec la conviction qu'on est inspiré différemment là-bas que dans son petit studio parisien tranquille au chaud.
Donc c'était de l'ordre du fantasme presque.
Du rêve, fantasme. Alors fantasme...
Non, parce qu'en fait il y a un truc, c'est que...
qu'on veut réaliser.
Ouais, voilà.
Fantasme...
Le truc, c'est qu'on est toujours un peu déçu quand on... quand on réalise justement les trucs auxquels on, on aspire.
Ouais, tu vas nous parler de quelque chose de précis.
Non, mais tu sais, on dit souvent qu'effectivement, il y a des trucs qu'il faut que ça reste de l'ordre du rêve et du fantasme plutôt que de le réaliser.
Ça peut être décevant.
Parce que ça peut être décevant, par exemple, par rapport à l'image que tu t'en faisais.
Avoue, tu faisais pas le malin sur le bateau quand t'avais la nausée là qui montait.
Ça, c'est autre chose. C'est autre chose, mais il faut vivre des moments difficiles.
Ouais. Ah, il y a ce truc-là quand même, hein. Il faut en chier quand même pour...
Oui, moi je suis un peu de cette école-là, ouais. Oui, bien sûr, et puis la nature des projets que je mène en témoigne un peu. Mais c'est marrant ce que tu dis sur les fantasmes. Moi je fais partie plutôt de ceux qui pensent qu'il faut essayer de réaliser ces fantasmes, ces rêves. Fantasme, après on joue un peu sur l'étymologie, mais ouais. Pourquoi s'en priver? On n'a qu'une vie. Moi, j'aime réaliser mes fantasmes, mes rêves, dans la mesure du possible, mais j'essaye de pas me fixer de limites.
Et t'as jamais cette appréhension de te dire... est-ce que je vais pas être déçu si je vais au bout de ce truc-là? Est-ce que finalement, par exemple, quand tu pars du principe que tu dis je veux composer de la musique sur un bateau derrière la ligne d'horizon, etc., c'est quelque chose qui est, tu sais, c'est presque romanesque en fait quand tu y penses. Mm-hmm. Une fois que tu te retrouves réellement avec tes machines et puis l'eau et là tu fais bon bah voilà, tu vois, c'est en fait c'est quoi le comment tu vis avec la possibilité que ça soit pas si ouf que ça, en fait, le truc. Tu vois, et que tu te dises, ah ben ça, c'est logique, en fait, qu'on fasse de la musique sur la terre ferme, parce qu'en vrai, l'élément bateau n'apporte pas grand chose. Tu vois, par rapport à juste si tu te mettais sur un ponton, sur une jetée, tu vois, sur l'océan, pareil, mais est-ce qu'il y a un truc où tu te dis à un moment donné, tout ce qu'il y a en plus là, c'est peut-être un peu. Pas optionnel, mais bon, ça changera pas fondamentalement grand chose. Tu vois ce que je veux dire?
Je vais peut-être te décevoir, mais composer de la musique derrière cette ligne d'horizon sur un bateau, ouais, ça apporte quelque chose.
Ah, ok. Voilà. Okay.
Donc, en fait, je me suis jamais posé ce type de question. Mm-hmm. La seule chose, et je dirais peut-être dans ton sens, que je me suis dite en partant, c'est que peut-être je n'y arriverai pas.
Okay.
C'était plutôt dans la notion de challenge, de créer, de composer dans des conditions dantesques, mm-hmm, auxquelles je suis pas habitué parce que je suis pas, ouais, j'ai un peu le pied marin, mais j'étais jamais parti aussi longtemps. Là, j'ai passé 34 jours en pleine mer entre l'Islande et l'Écosse, ouais, sans voir les côtes, sans escale. Donc t'es vraiment coupé du monde.
Et t'étais vraiment seul sur le...
Non, il y avait beaucoup de marins.
C'était un bateau de la compagnie des pêches.
C'était un gros bateau, d'accord.
Ah ouais, c'est limite, okay, Martin Eden, tu vois. C'est pas...
Ouais, c'est un gros bateau industriel de pêche.
Ah ouais,
en fait,
ok.
Pour réaliser ce projet, j'ai fait une sorte de casting de bateau. Mm-hmm. Et j'ai cherché un bateau qui puisse m'emmener suffisamment longtemps, parce que l'idée, c'était de composer complètement un album in
isolé,
situ.
Ouais.
De pas aller un peu sur le bateau, puis revenir,
oui,
à Paris,
avoir d'escale,
puis finir, ouais, tout dans mon studio. Non, là, je voulais partir et ne rien retoucher une fois revenu à terre.
D'accord.
Donc, il fallait que le bateau parte assez longtemps. Parce que tu crées pas, tu produis pas un album de musique.
Ouais, comme ça, en claquant des doigts.
En trois jours.
Ouais, ouais.
Tu peux, mais c'est de la performance et c'est souvent un résultat assez expérimental. Mmh. Donc moi, j'avais à peu près identifié qu'il fallait minimum un mois, cinq semaines, quoi, pour pouvoir faire ça. Et je suis parti, donc il y avait cette ligne d'horizon, l'idée d'aller derrière cette ligne d'horizon, mais il y avait aussi l'idée de vivre la tempête.
Ah.
Ça, j'en ai parlé à mon psychologue. Ça pourra faire l'objet de la troisième partie. Mais je voulais vivre une vraie tempête.
Il voulait en chier, hein, il voulait en chier. Hein. Ok.
Je voulais mettre en musique la tempête.
Tu serais pas, ouais, un peu chrétien,
hein. Et du coup, voilà, j'ai tout ça pour dire que j'ai choisi ce bateau, je l'ai identifié, je suis allé rencontrer l'armateur, donc c'est le propriétaire du bateau, puis après le capitaine, mm-hmm, où il faut l'accord de ces deux personnes pour embarquer. Ils ont accepté et je leur en suis très reconnaissant, même si je comprends toujours pas pourquoi ils ont accepté, mais en tout cas ils l'ont fait et ça a été une expérience extraordinaire dans, mmh, le sens littéral du terme. Je suis parti donc 34 jours, j'ai vécu 2-3 tempêtes,
ouais,
et je suis revenu à terre avec un album complètement fait, pas masterisé, mmh, mais composé entièrement. Et le moment où j'ai mis le pied à terre, j'avais qu'une envie, c'était de repartir pour une prochaine aventure. Et c'est vrai que ça a été la naissance un peu de ce concept, de se dire, je vais dans un environnement inconnu, que je ne connais pas, sans aucune volonté de faire de l'appropriation culturelle des pêcheurs ou de la mer.
T'aurais pu.
J'y vais.
Des champs de pêcheurs, par exemple, des champs de marins.
Par exemple. Et j'emmène avec moi tous mes instruments, des micros, pour enregistrer cet environnement extraordinaire.
L'ambiance, ouais.
Et qu'à partir de ces enregistrements, la musique se crée. Et donc après, j'ai décliné ce principe au Groenland, où j'ai voulu travailler sur le silence, sur l'album -22.7. Puis après, sur d'autres projets, à Nazaré, sur la vague géante de Nazaré, dans le phare de Thévenet, qui est un phare hanté.
Il l'est vraiment.
D'autres expériences à venir. Il l'est vraiment. C'est un lieu où il y a des énergies très particulières.
Ça, c'est la Bretagne, c'est normal. Ouais, j'imagine que c'est en Bretagne.
Ouais, c'est au large de la pointe du Raz, effectivement, Finistère. Et c'est un lieu habité. C'est un lieu habité, oui.
Mais du coup, sur le bateau, 34 jours, t'as pris tout ton matos, tu rentres là-dessus, enfin tu montes sur le bateau, et du coup tu vivais avec l'équipage quand même pour les repas, j'imagine, ou ce genre de trucs, mais après c'était de la compo. Est-ce que tu t'étais calé, donc toi, de toi-même, t'étais parti sur il faut 5 semaines pour créer.
En gros, oui.
Ouais. Mais est-ce que du coup, t'avais des périodes où... Il n'y a rien qui venait et du coup, tu vivais sur le bateau,
Bien sûr.
Ouais.
Bien sûr. Et ça a été...
T'avais une petite pression de te dire, putain, il faut que je produise quand même ou...
Bien sûr.
Ouais.
Il y a un reportage qui a été fait par l'émission Thalassa.
Ah ouais.
Donc j'ai embarqué sur ce bateau avec une équipe de tournage.
Ah oui.
Donc j'avais aussi cette pression-là.
Ouais. Georges Pernaud représente.
Et comment on s'en défait ? Bah, tout simplement en acceptant que... Le risque, c'est de ne pas y arriver,
ouais.
De se dire, je vais tout faire pour y arriver, je vais faire le maximum, mais ça se trouve, je ne serai pas inspiré,
ouais.
Ça se trouve, c'est nul là-bas, ça se trouve, je ne sais pas.
Ça se trouve, en fait, ouais.
Ça se trouve, je suis malade.
Ouais.
Arriver à composer si on n'est pas bien, si on se sent isolé, si on se sent angoissé.
Mais du coup, tu t'étais astreint à une hygiène de travail, tu rythmais tes journées ou c'était vraiment...
Bah on apprend, en fait, ça se crée au feeling avec cette idée de travailler, cette idée de pas dormir toute la journée, de travail. Donc souvent, sur ces projets, il y a la première phase, c'est aller à la pêche, au son, sans jeu de mots. Ça permet de découvrir l'environnement nouveau auquel on se confronte, d'enregistrer, de découvrir les sons. Et en fait, à travers ces enregistrements, il y a tout de suite, l'inspiration, elle vient assez naturellement, parce que c'est des sons qui ont des rythmes. Là, par exemple, sur cette expérience-là, un son emblématique, c'était le bruit du moteur, qui est un gros, gros, gros moteur diesel de je ne sais plus combien de chevaux. C'est un son qu'on entend partout sur le bateau, qui est sur tous les enregistrements que j'ai fait, que je sois à la proue, tout à l'avant, derrière, tout en haut, dans la cale. On l'entend partout, il est sur toutes les prises de son, et c'est un son qui commence le jour du départ, quand on largue les amarres, et qui s'arrête le jour de l'arrivée, le moment où on éteint le contact. Autrement, le moteur tourne constamment, et il tourne constamment à la même, sur la même note, et la même fréquence, et la même cadence. C'est-à-dire que là, c'est, sur ces moteurs-là, c'est un bateau des années 70, la vitesse, elle est réglée par l'inclinaison des pales.
Ouais.
Et plus les pales sont à la verticale, plus le bateau va vite. Et plus on les met à l'horizontale, moins ça a de prise. Donc du coup, ce rythme, je crois que c'est 116 BPM. Et la note, c'était un fa dièse, je ne sais plus exactement. Mais voilà, ça te donne la tonalité du projet. Ça te donne des harmoniques.
Pour savoir ça ou tu
bah après, quand tu la rentres dans ton logiciel et tu commences à mettre des notes, tu vois un peu la tonalité. Mais voilà, l'enregistrement, l'écoute de son environnement, ça te donne les clés, en fait, de la composition.
Il y a un morceau sur l'album où on entend vraiment ce bruit de moteur particulièrement. Même si tu dis qu'il est présent sur tous les samples, enfin sur tout ce qui a été pris.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un morceau spécifiquement où on peut l'entendre ?
Tout à fait. Il y a le morceau 8ZL 40, absolument, qui est la référence du moteur du Joseph Rotti 2, donc le bateau sur lequel je suis parti en 2013.
Allez, on s'écoute ça. 8ZL40, c'est le moteur.
Ça, c'est là l'image du moteur.
C'est marrant de se dire que du coup, si t'étais parti sur un voilier, l'album aurait été différent, vraiment. Parce que
Tout à fait.
Ouais, non, parce que tu sais, tu te dis, ok, c'est juste composé en mer, mais en fait, l'environnement, il impacte complètement la création, en fait.
Mais je pense qu'on même de manière générale. Ouais. Or, là, on parle dans ce cadre des projets molécules, mais de manière générale, je pense que l'environnement dans lequel une artiste évolue a une incidence, une influence très forte sur ses productions.
Tu sais qu'on a tendance à se dire, quand on parle de studio, ça c'est un endroit un peu coupé du monde, où justement ça filtre les bruits extérieurs, etc., pour avoir un truc sans nuisance.
Mais vous connaissez beaucoup d'artistes qui produisent et qui composent dans des studios ? Moi j'en connais très peu. C'est-à-dire que les gens, ils font ça dans des home studios. Et dans un home studio, t'as la sirène des pompiers, t'as l'alarme d'un tel, les téléphones. Un vrai studio digne de ce nom, on y va presque plus déjà. Et quand on y va, c'est pour mixer, pour finaliser des choses. Chaque heure coûte très cher. C'est pas vraiment des lieux où les choses se créent maintenant. Ou alors, où c'est juste de l'enregistrement, mais les maquettes et les compositions étaient faites bien en amont, dans d'autres cadres.
Non. Il y a une question.
Ouais, c'est vrai.
Je précise déjà que sur cet album-là, dont on écoutait un extrait, il y a aussi un bouquin qui en a été tiré, Géophonie d'un musicien parti créer un album en Atlantique Nord. Et on va retrouver d'ailleurs cette approche multimédia, entre guillemets, dans différents projets que tu auras ensuite, avec des courts-métrages, des choses comme ça. Et donc, notamment, on évoquait en 2017 là, l'album 27 degrés 7, donc enregistré dans un village de pêcheurs en plein Arctique, au Groenland.
22-7.
Moins 22-7,
j'ai pas dit 22.
J'ai dit 27-7.
Pardon.
C'est un petit village de. Alors, c'est des chasseurs là-bas surtout, au Groenland. Tinitekilak, ce petit village sur la côte est du Groenland.
Est-ce que. Alors, tu disais que tu adoptais à chaque fois la même façon de faire, à savoir de commencer par enregistrer l'environnement dans lequel tu es. Alors, j'imagine que la nature de l'environnement va donner des sons différents et donc une inspiration musicale différente. Mais est-ce que tu pourrais dire quand même que le fait d'être à l'écoute beaucoup plus de la nature et des bruits ambiants, pas que de la nature, hein, mais aussi de l'activité humaine, etc., ou de l'activité des machines, comme avec le moteur, ça amène forcément à pratiquer une musique plus expérimentale, plus bruitiste, ou c'est pas si logique que ça ?
Ça, en tout cas pour ma part, ça implique de faire une musique plus cérébrale, où on est attentif, où chaque détail compte. C'est des projets où les formats et les morceaux s'allongent aussi. Le format de la chanson 3-4 minutes est plus vraiment valable. Chaque morceau est un peu une histoire dans la construction, dans les intros, dans les outros. C'est un peu une autre manière de composer et de faire de la musique. Et je dirais que l'objectif du compositeur dans ces cas-là, c'est d'embarquer l'auditeur dans cet environnement un peu extraordinaire. Ça prend forme aussi dans les performances en live, de travailler sur l'immersion, travailler avec les techniques du son spatialisé avec des techniques de projection immersive. Moi, j'aime me situer au croisement de la technologie et de l'artistique. C'est quelque chose qui m'excite et qui me challenge aussi. Donc j'essaye d'avoir toujours une dimension technologique dans les projets que je mène, que ce soit dans la prise de son ou dans les performances live.
Ouais. Et du coup, alors pardon, on va parler chiffres, on va parler argent. ces expéditions, parce qu'on peut parler d'expéditions en fait, tu les finances comment ? C'est subventionné, il y a du mécénat, il y a du partenariat peut-être avec des marques de matos ou comment.
Est-ce que Thalassa t'a payé ?
Est-ce que Thalassa, est-ce que Georges Pernod, Big Up, REP, est-ce que Thalassa effectivement, est-ce que France Télé a participé ? Comment ça se monte en fait ce genre de projet ?
Parce qu'il y a certainement un budget nécessaire.
Ah bah oui, là oui, 34 jours en mer, j'imagine que ça a un prix, ça a un coût en tout cas.
Tout à fait, c'est une bonne question. Chaque aventure s'est montée très différemment.
D'accord.
Là, la première sur ce bateau, ça s'est vraiment fait avec 3 francs 6 sous. J'ai eu l'autorisation d'embarquer pour 3 personnes. Donc il y avait 2 personnes de Thalassa et moi. Mmh. Et on a été nourris, logés gratuitement pendant 34 jours par la compagnie des pêches de Saint-Malo.
D'accord.
Ces 2 personnes travaillaient, ont été payées par Thalassa. Mmh. Moi, je n'étais pas payé. Ça m'a coûté un aller-retour pour aller à Saint-Malo, pour embarquer, puis pour débarquer. J'avais des affaires techniques, mais qui m'ont été achetées, je crois, par la production.
D'accord. Ton label, donc ?
Non, la production, pas. Non, il n'y avait pas de label à ce moment-là. C'était vraiment un projet autoproduit. Bah, ça ne s'était jamais fait, donc les gens du milieu me disaient que j'étais gentil et que c'était sympa, mais qu'ils trouvaient ça tous très sympathiques, mais personne avait envie de produire un projet comme ça.
Donc quand tu parlais de production, c'était qui a payé une partie matérielle ?
Bah, c'est l'équipe, c'est France Télévisions, Thalassa. Ouais. Mais c'est, là, on parle d'une paire de bottes et d'un ciré. Hein. C'est vraiment rien. Et en termes de micro, sur ce projet, je suis parti vraiment avec ce que j'avais. Moi, j'ai commencé les enregistrements, j'avais un mini-disque et un petit micro. Et puis là, j'avais un zoom et un micro stéréo et un micro canon qu'on m'avait prêté.
Ouais.
Mais c'était vraiment système D, quoi. Et puis sur les projets, ce projet a fait un peu de bruit. Bah grâce à l'émission et puis y a une tournée qui s'est faite après avec des concerts à la Gaîté Lyrique en 360, un livre qui est sorti, la presse en a pas mal parlé, et du coup le nom est un peu ressorti dans les médias, du coup Maison de Disques qui a signé le projet après, chez Because Music. J'ai signé pour 2 albums et on a fait moins 22,7 avec un peu d'argent de la maison de disques, l'avance, une avance des éditions aussi, ce qui n'était pas le cas sur le premier projet où j'avais pas d'éditeur et pas de maison de disques. Et puis là, les derniers projets, on a fait un projet à Nazaré, donc sur la plus grosse vague jamais surfée au Portugal. On l'a fait avec Quicksilver et un producteur indépendant à Biarritz qui ont financé ça. Mais pareil, j'ai pas été payé.
Mais par contre, eux, enfin, Quicksilver peut
financer l'équipe de tournage, le montage.
Donc après, ils s'en servent pour leur com.
Toutes les étapes. Ouais, alors après, c'est des échanges de visibilité. C'est un projet tamponné par la marque.
Oui, parce que je précise d'ailleurs que le court métrage, donc, enfin, l'album a donné naissance à un court métrage, donc tu dis avec Quicksilver, etc., et qui est disponible d'ailleurs sur ta chaîne YouTube, on le trouve aujourd'hui, et puis qui est diffusé dans un
sur MyCanal. Le Thalassa, il est sur YouTube. Il y a sur moins 22,7 au Groenland, il y a eu un film. Là, il y avait aussi un producteur audiovisuel qui a aussi financé.
D'accord.
C'est un projet qui a coûté un peu plus cher parce que c'est loin, et donc il faut y aller. Et en termes de matos, j'avais aussi un partenariat avec Sennheiser. Oui. J'ai fait un projet dernièrement en partenariat avec DPA,
Et micros, ils font des micros aussi.
Qui font des super micros. C'est un projet sur le Vendée Globe. Et c'est un projet qui a été aussi financé par le sponsor du navigateur. En fait, il n'y a pas de règles. Là, on est en train de réfléchir à une prochaine aventure. On discute avec des gens. Mais à ce jour où je vous parle, on n'a aucune idée. On a 0 € sur la table pour financer ce projet-là. Mais on n'est pas inquiet du tout. Parce qu'on trouve toujours des solutions. Quand on a de l'argent, on fait les choses dans les règles de l'art. Et puis quand on n'en a pas, on les fait avec les moyens, les systèmes D. Moi, maintenant, j'ai un parc de micros, j'ai assez d'instruments, j'ai le matériel pour pouvoir partir.
Puis tu as une crédibilité aussi, du coup, qui... Ça fait un peu gage de sérieux par rapport
ça à... Ça aide à trouver le financement. En fait, le plus gros souci qu'on a, je dis « on » parce que c'est vraiment un... Même si je suis seul un peu sous les projecteurs, c'est un vrai travail d'équipe et notamment avec mon manager. J'aime pas dire manager parce que c'est avant tout un ami et un camarade d'aventure. On monte un peu ces projets ensemble.
Il acquiesce.
Et c'est vrai que la grosse problématique qu'on a sur les financements, c'est la provenance des fonds. On aurait moyen de financer pas mal de projets avec des fonds ou de l'argent qui viendrait de partenaires qui correspondent pas forcément à nos valeurs ou aux valeurs que les projets défendent.
C'est pour Total Energy, ça.
Ouais, c'est ça, genre un pétrolier qui te contacte, tu peux venir sur mon bateau, quoi.
C'est un exemple concret, ça peut être ça, voilà.
Total, après, c'est un bateau.
Total peut être intéressé pour montrer les activités vertueuses qu'ils font sous le prisme du son et des océans. Et on est à un moment où c'est important aussi de trancher, de vérifier un peu d'où viennent les financements. Et c'est vrai que ça rend l'opération parfois un peu compliquée parce que les gens qui ont de l'argent, c'est souvent des gens qui
veulent un peu
qui ont des intentions,
embellir leur image et
ou des choses à se faire pardonner.
Ouais. C'est-à-dire que si d'aventure l'armée française, Cocorico, te disait ça serait quand même pas mal un bruit de rafale au décollage sur le porte-avions, est-ce que ça te dirait de venir? Tu dirais non parce que...
Mais si, c'est un patriote, allons Romain.
Oui, mais quand même.
Pour la France.
Non, mais que non. Des rafales démilitarisées alors dans ce cas.
Que je ne vais pas... Je peux te répondre hors antenne.
Très bien.
Ça veut dire, je pense que vous avez très bien compris, l'idée, ça veut dire qu'il faut faire attention et que financer des projets d'envergure dans des bonnes conditions, c'est pas toujours évident.
Ouais, bien sûr.
En plus, dès qu'on veut mettre une dimension audiovisuelle à ces projets, ça a des coûts importants.
Les coûts s'envolent, ouais, bien sûr.
Moi, il y a un aspect qui me questionne par rapport à tout ça, enfin qui m'interroge, enfin que j'ai envie de savoir, c'est les aspects techniques, mine de rien. Parce que est-ce que tu t'es une fois sur place, alors en plus c'était de plus en plus ambitieux, j'imagine, tu disais que ton parc de micros s'est étendu, etc., au fur et à mesure, en fonction des différents voyages.
Je pense que c'est la question que j'avais, vas-y.
Est-ce que tu as découvert, est-ce que tu t'attendais pas à certains trucs, genre tu dis, oh merde, là.
Il me manque un plugin, j'ai pas internet.
Ou ça, je sais pas comment le faire, ou ça, ce son, je m'attendais pas à ce qu'il faille faire ça pour le capter comme il faut.
Il y a deux questions différentes.
Ouais, mais si, parce que c'est, en gros, c'est partir avec un set d'instruments et de matériel qui est figé. Et arriver sur place, te dire « Ah !»
Ça, c'est une grosse angoisse, effectivement.
Et puis en plus, les sons que tu enregistres...
Et casser quelque chose.
Ah, en plus,
Donc moi, pour la petite histoire, je suis utilisateur de logiciel Cubase. Historiquement, j'ai commencé sur Cubase, je travaille toujours sur Cubase, et sur Ableton Live aussi, pour justement le côté plus performance. Et Cubase, jusqu'à très récemment, est un logiciel qui fonctionnait avec un dongle.
Ouais.
Donc c'est une micro clé USB et sans cette clé USB,
le programme ne se lance pas.
Ça marche pas.
Du type iLock.
Voilà.
Exactement. Et du coup, ça c'est la grosse angoisse, ça m'est déjà arrivé et ça m'est arrivé notamment au Groenland d'arriver et de et de pas la trouver. Heureusement, Dieu soit loué, elle était dans une des au fin fond d'une valise.
C'est pour ça qu'il faut utiliser des versions craquées. Ça pas de problème.
Ça, on dit en antenne. On est en antenne de toute façon depuis le début. Qui nous regarde? Il y a des gens qui nous regardent.
Non, personne.
Non, t'inquiète, ça sortira pas d'ici.
Et évidemment, le matériel, de rien oublier, une carte son, la connectique. Faut penser à tout ça. Mais on s'en sort, ça se prépare. C'est des voyages souvent assez longs à mettre en place. Donc on fait une liste, on essaye d'être assez méthodique. Et je touche du bois, et jusqu'à présent, au final, tout s'est bien passé. Mais j'emmène pas de spare, par exemple. On pourrait se dire, tout est enregistré via... Là, le dernier projet, c'était une UAD, carte son, et puis dans l'ordi directement. Si le Mac tombe en rade, on fait comment?
On
est foutu. Ça arrive. C'est comme quand on fait un live, qu'une boîte à rythme tombe en panne. C'est la vie, quoi.
Mais surtout, si tu les soumets à un environnement qui est peut-être un peu extrême par rapport à la plage d'utilisation normale, donc là, notamment pour l'épisode au Groenland.
On parlait des synthés analo, effectivement, qui, eux, on sait, sont extrêmement sensibles en température, quand il fait trop chaud, quand il fait trop froid, quand ça varie. Ou même, alors je sais pas si t'embarques des instruments de lutherie, tu vois, des guitares, des choses comme ça, avec du bois, où on sait aussi que ça change énormément en fonction de la température. C'est un enfer à accorder après, des choses comme ça.
Bien sûr. Mais tout ça, ça fait partie, ça je le provoque même, parce que ça fait partie du intrinsèquement des aventures que je mène. C'est-à-dire d'aller dans des lieux et de faire les choses un peu différemment. Et de travailler aussi sur la contrainte. Quand je pars, je peux pas emmener tous mes instruments. Donc je sélectionne une partie des instruments. Pour vous donner un exemple, sur le premier projet sur lequel je suis parti, donc en pleine Atlantique Nord, j'avais emmené un Prophète 5, j'avais emmené un Mini Moog, j'avais emmené un...
T'as pas peur de les perdre.
Une boîte à rythme Tempeste de DSI. J'avais emmené un Analog 4 de Electron, et j'avais emmené ma Gibson Les Paul. J'avais emmené des pédales d'effet de guitare. J'adore créer des chaînages où on fait passer un son dans une pédale, puis dans une autre, puis dans une autre, puis dans une autre, et puis au final, le son se balade, et parfois on le fait revenir dans la boucle, ça crée des textures. Donc beaucoup de pédales d'effet et des micros. Donc deux micros et un enregistreur, et j'avais une carte son et mon ordinateur et une paire d'enceintes, des petites Genelec, là, les toutes petites Genelec.
Oui, t'as quand même des enceintes de monitoring, tu prends comme ça.
Ah, c'est obligé. Bien sûr. Ouais. Non, le casque, un casque évidemment, hein, mais non, c'est des enceintes. Les Genelec, elles sont super parce que c'est vraiment tout petit et le son, alors on peut pas mixer un album dessus. Surtout sur la musique électronique avec un pied et de la basse, mais elles sont plutôt pas mal, elles sont très robustes. Et donc tout ça, ça tient dans 3-4 grosses valises. Mais chaque synthé a les stigmates de ses aventures. Il y a des cuts, il y a des... Et sur le Groenland, par exemple, à peu près le même setup, sauf que j'avais un Boucla de Music Easel, donc c'est un synthé semi-modulaire. J'avais un Mofo 4 aussi.
C'est relativement imposant, un Boucla en plus, non?
Boucla, c'est le Music Easel, ça tient dans une petite valise comme ça. C'est gros. Hein,
t'étais motivé. Ouais.
Et j'avais aussi un SH-101 que j'avais pas. Par contre, j'avais pas emmené le Mini Moog. Et j'avais un Prophète 12 en rack aussi, et une Analog Drum Machine de chez Electron. Donc il y a du matériel. Et c'est important pour moi aussi dans ces aventures d'arriver avec mon matériel, de me le charrier jusqu'à la destination pour...
Il y a vraiment ce côté...
Un peu geek de matos.
Geek de matos, mais un petit peu chemin de croix. Genre, il faut quand même que.
Pour ramener le Buc là, il faut le vouloir.
Ouais, mais c'est des instruments qui sur place sonnent et sont sensibles en fait à tout ça. C'est des instruments qui vivent. C'est l'intérêt de ces instruments-là.
Question bête, ça. Parce qu'il y a aussi des humains qui t'entourent lorsque tu fais ces voyages, qui ne connaissent pas forcément cet univers-là. Est-ce que ça les intrigue? Est-ce que vous parlez de machines? Tu leur laisses. Ça crée du lien particulier, le fait que ce soit avec tes machines, avec les gens?
Bah oui, évidemment, ça intrigue. De toute façon, quelqu'un qui prend du son avec des micros, ça intrigue toujours. Mmh. C'est une manière de documenter un environnement. Les gens sont assez à l'écoute de ça, assez intrigués. Et évidemment, ils posent des questions, ils viennent voir. Au Groenland, on a fait plusieurs séances d'écoute, notamment avec les enfants de l'école, du village, avec un chasseur. C'est des moments de vie et de partage. C'est pas forcément des... L'aspect humain s'entend pas forcément sur les projets et sur les albums, parce que je veux vraiment mettre en avant la puissance des éléments et l'environnement. Mais il y a des petits clins d'œil.
Est-ce que c'est une forme de défi? Et peut-être ce sera une des dernières questions autour de cet aspect plus concept. Enfin, non, il y en a une toute dernière après. Mais tu parlais de musique plus cérébrale, mine de rien, lorsque tu es dans ces contextes-là. Or, tu t'inscris quand même dans la musique populaire. Est-ce qu'il y a une tension qui commence justement à se créer quand tu crées ces albums, entre ne pas perdre aussi mon auditoire habituel, tu vois, qui est mes auditeurs, qui m'écoutent. Est-ce qu'il y a des questions que tu te poses?
Mon seul objectif quand je pars comme ça sur ces aventures, c'est de me perdre. Je me documente très peu avant de partir pour ne pas vraiment savoir où je vais. Et aussi pour qu'il y ait une étincelle, pour que le moment où je me retrouve sur place, je me le prenne tout en pleine figure. Que ça provoque un changement assez radical. Je pars sans musique, par exemple. J'ai mes 2-3 albums de chevet qui sont dans mon iPhone, mais je veux me couper des références, je veux couper au maximum toute influence du monde extérieur. Et sur place, l'objectif principal, c'est de se perdre. Se perdre dans le sens, la perte de l'ego presque, de se transformer en récepteur de quelque chose, et que la composition se fasse en fait... le plus naturellement possible, sans réflexion, sans se dire qu'on va aller ici ou là, de faire et de se mettre dans un état presque proche de la méditation, en fait.
Mais en tant qu'artiste, tu as quand même un rapport au public, celui qui va réceptionner ensuite l'œuvre que tu es en train de créer. Tu l'as forcément un peu en tête à des moments, non?
Ben ça, tu l'as en tête, je l'ai eu peut-être plus en tête sur l'album RE201 que je viens de sortir, qui a été un album qui s'est étalé sur 2 ans, ce qui est énorme pour moi, parce que les derniers albums, je les faisais en 5 semaines, tout était fait, j'avais vécu quelque chose de complètement fou, et personne ne pouvait me faire changer quoi que ce soit, c'est un bloc tellement personnel, avec tellement d'affect, que personne n'a son mot à dire finalement. Donc le public non plus. Par contre, après se pose la question de comment partager ce qu'on vient de vivre, comment partager cette musique en concert, à travers des documentaires, à travers des conférences, à travers. Après, ça prend différentes formes.
Puis rentrer en France, j'imagine qu'il y a quand même une réflexion sur le tracklisting. J'imagine que tu composes plus de morceaux que ceux qui se retrouvent réellement dans l'album. Il y a quand même aussi des choix avec le public en tête, un minimum, j'imagine, d'une release, en fait, d'un album, quand même.
Mais c'est infime, ça. Ouais. C'est des choix. C'est même pas des choix. Ça se fait assez naturellement. Effectivement, sur ce type de projet, je dois composer 20 de morceaux à peu près, finaliser 15, et il y en a 12-13 sur l'album. Le ratio, c'est à peu près ça. Et puis après, plein de petits bouts qui ont été faits. En une journée, je peux composer 10 de boucles avec un petit quelque chose. Et sur cette 10 de boucles, parfois, il y en a 3 qui vont donner 3 morceaux. Et parfois, pendant plusieurs jours, il n'y a rien du tout. Ça se passe un peu... ça ne se contrôle pas, en fait, ça. Il y a souvent 2-3 morceaux qui ont été composés le même jour, en tout cas le début de la composition, dans l'idée. Je me mets dans un état où je produis au maximum, et dès que je suis en train de travailler sur un morceau, et j'ai une idée qui naît en disant je me rappelle l'enregistrement que j'ai fait hier, hop, bah tout de suite je ferme la session, j'ouvre, je commence plein de choses, quoi. Ça, c'est la deuxième phase, après cette première phase d'enregistrement et de découverte de l'environnement, c'est la phase de production. Et ça, ça dure 15 jours, 3 semaines. Paf, 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 ça produit. Je nomme tous les morceaux jour 7, 1, jour 7, 2. Et parfois, je fais 10, 13 boucles dans la même journée. Donc j'ai jour 7, 13, jour 8, jour 9, nanana, jusqu'à jour 22, 23. Et là, la dernière semaine, je commence à me dire, ah, tiens, il faut finaliser les choses. Et donc, je réécoute. Voilà, et là, on finit.
Tu parlais de texture sonore tout à l'heure. Et je pense qu'il y a une particularité lorsqu'on fait, on parle parfois de field recording, le fait d'aller dans la nature, enfin dans des environnements extérieurs en tout cas, et capter des sons pour ensuite les réutiliser, pourquoi pas en studio. Il y a des textures spécifiques, évidemment, de ce que l'on enregistre. Est-ce que tu vois une forme de parallèle? Est-ce que cette matière sonore, tu vas la travailler de la même manière que si c'était, par exemple, du sound design un peu plus classique, avec une machine, où tu, en changeant des paramètres, tu vas commencer à créer un son spécifique, et tu peux même te créer un son qui te ressemble, voire en accumulant les effets, les plugins, etc. Tu crées une texture sonore qui n'a jamais été faite quasiment auparavant. C'est souvent ce que recherche un musicien lorsqu'il est dans l'expérimentation sonore. Est-ce qu'il y a un parallèle entre ce sound design avec des machines et cette texture sonore prélevée comme ça, déjà existante?
Bah oui, tout à fait. La ramification, l'origine, c'est ça, c'est cette culture du dub. Tu prends un son, c'est une fréquence, et tu la tritures, tu la sculptes. Tu la fais passer dans tous les outils qui sont sous ta main. Donc c'est essentiellement un travail sur les fréquences avec des équalisations, un travail sur la dynamique. Un travail, tu peux mettre les sons à l'envers, tu peux jouer sur la hauteur des notes, tu peux le time stretcher.
Et, ah oui, on aime ça.
Et travailler sur le grain du time stretch. Évidemment, tu as toutes les modulations, les chorus, les flangers, tu peux faire passer ça dans des séquenceurs à pas de filtre qui te créent des notes. C'est infini. Tu prends une note d'un sample, une note d'un piano, tu peux en faire aussi plein de choses. Le son, c'est une vibration. Et cette vibration, qu'elle soit note produite par un instrument ou le son généré par le claquement de la porte tout à l'heure, c'est un son, c'est une vibration. Et après, on la fait vivre un peu comme on veut.
Tu utilises quand même parfois des trucs très bruts, tels qu'ils ont été captés, et tu les mets tels quels. Et quel ratio entre ce que tu vas très retravailler?
Alors, je pense que c'est surtout le processus de travailler les enregistrements du sound field recording. Ce processus-là, il est important dans mon processus de composition. Parce que c'est un processus qui amène l'inspiration et amène les notes de musique, en fait. Donc ça, c'est écouter. Et t'as différents degrés d'écoute. Tu peux simplement entendre et tu peux écouter avec une écoute attentive, profonde, et aller vraiment dans le son. Et là, y a un côté hypnotique dans le son. Moi, je travaille quand même beaucoup sur de la musique répétitive, en boucle. Un enregistrement de pas dans la neige, écouté 1000 fois, en changeant quelques fréquences, quelques hauteurs, en le time stretchant, on est complètement ailleurs. Et le fait de prendre conscience de son état d'ailleurs va nous faire partir encore. Enfin, ça marche que comme ça.
Oui, c'est par rebond, quoi.
Exactement, c'est par rebond. Et en s'autorisant aussi le temps d'essayer des choses et que ça ne soit pas immédiat.
Et il n'y a pas le risque parfois, alors là c'est très intellectualisé, hein, mais de se dire qu'on travestit aussi une forme de réalité, de ce qu'on a capté, et qu'on la transforme tellement qu'on n'est plus en lien avec là où on est réellement, en plus contre réellement, tu vas s'en
embrasser. Salman, arrête cette recherche d'authenticité.
Tout à fait, on l'a travesti. Moi je dis souvent, je ramène c'est une sorte de documentation très subjective. C'est pas ma manière de transfigurer la tempête en musique. C'est ma vision de la chose à un moment précis. Si je le refaisais aujourd'hui, ça serait sans doute différent. Et c'est la tempête, c'est pas ça en musique, c'est ma vision. Donc c'est subjectif, c'est personnel. Et pour d'autres personnes, ça serait totalement différent.
Donc c'est pas, c'est pas, ça n'a pas vocation à être un documentaire, en fait.
C'est pas une démarche scientifique.
Ouais. Et oui, parce que le documentaire travestit aussi la réalité. Il te donne le sentiment du réel. Mais alors parfois la fiction est plus proche du réel que le documentaire. Ça arrive.
C'est
aussi,
la vision artistique, en fait. C'est là où la sensibilité de l'artiste est intéressante. C'est qu'elle lui est propre, qu'elle peut te parler ou pas te parler, mais en tout cas, elle est singulière. Et c'est ce qui permet parfois, ça m'est arrivé de faire des projets avec des milieux scientifiques, et le regard artistique permet d'incarner, de donner vie finalement à de la data, à des chiffres. Et ça, c'est important, ça mène une dimension dans un message, ça donne vie à des choses qui n'en ont pas forcément.
Alors j'avais une question justement par rapport à ton auditoire. Parce que donc, tu fais de la musique électronique, donc on pourrait logiquement penser que le public qui va t'écouter, c'est d'abord du public qui vient pour la musique électronique. Mais est-ce que le fait de faire ces performances-là, ces voyages et au long cours, ça t'a amené des gens qui sont plus adeptes des expériences, tu vois, et qui sont pas forcément des amateurs de musique électronique, mais qui pour le coup t'écoutent toi parce qu'ils savent que derrière... Il y a tout un récit, il y a un contexte, il y a une histoire liée au voyage, liée à la découverte d'endroits qui sont relativement hostiles quand même pour nous. Est-ce que, bah ouais, enfin, je vois.
Oh, d'accord, le Groenland, oui.
L'Atlantique Nord et le Groenland, moi, c'est pas des endroits où tu peux y aller quand t'es pas préparé, tu vois. Donc, est-ce que t'as perçu une partie du public, peut-être qui est venue après la diffusion du reportage sur Thalassa, tu vois, qui est venu à ta musique sans forcément avoir d'attente ou d'exigence par rapport à ce type de musique-là ?
Oui, je pense.
Ouais.
J'ai pas une analyse vraiment de ça, mais évidemment, je pense que le public qui te suit, c'est un public qui t'a vu ou entendu, et dans mon cas, c'est un public qui vient un peu de ses expériences, de ses voyages, de ses aventures qui ont été documentées, parfois à la télé, parfois un peu sous les projecteurs. Et c'est aussi le public qui vient me voir mixer au Rex à 5h du matin, ou en festival.
Donc quand les deux publics se rencontrent, ça peut être drôle, non ? Parce que,
C'est ce qui se passe en ce moment-là. Je commence la tournée demain. Elle a commencé en festival il y a quelques semaines, là, la tournée du nouvel album. Et je commence demain la tournée en salle. Le public qui vient, c'est un public qui vient voir Molécule en concert.
Tu vas avoir des Bretons avec les cirés, et puis à côté des hipsters.
Alors en Bretagne, mais demain à Nîmes, je pense pas.
Hipster a le ciré aussi. Hein.
C'est vrai, c'est vrai.
Et puis voilà, je vous donne aussi rendez-vous le 7 février prochain à l'Olympia, mon premier Olympia.
Oh, cool. Et ça y est, me sourit là à côté.
Ça sera un bon aperçu du public. Moléculien, savoir s'il y a effectivement des cirés jaunes.
Des bottes aigle.
Et je pense qu'il y aura sans doute un peu de cirés, un peu de rasta, quelques chasseurs inuits, de la peau de phoque, et des jeunes lycéens, et je pense à un public assez hétéroclite,
ouais.
que le projet fédère. Ouais.
Pour clôturer cette partie, j'avais évoqué en introduction le côté étiquette, parce que je trouve qu'il y a forcément un bien à dégager une identité en tant qu'artiste, à être associé à une pratique ou une façon de faire, enfin bref, voilà. Et pour autant, je pense que ça peut être limitant aussi parfois, de se dire « je ne suis pas que ça », avoir envie de revendiquer ça à un moment. Est-ce que c'est un truc où tu te dis attention, faut pas que Molécule soit uniquement le mec qui va voyager ou fait des trucs de fou. On l'a pas évoqué, il faudrait faire une mission de 4 heures avec toi, mais je sais aussi que tu as fait une expérimentation où en fait on te connectait directement des électrodes qui te permettaient de composer de la musique, en tout cas de jouer de la musique directement grâce à ton cerveau, comme ça, sans interface avec des contrôleurs, etc.
Un peu comme du thérémine, quoi, au pif.
Ouais, après le thérémine, t'as quand même la main,
c'est
tu
la
vois
main.
Oui, mais c'est au pif.
Au pif, oui, c'est vrai.
Clara Rockmore qui te joue du bac au thérémine, c'est pas du tout du pif, c'est un instrument qui s'apprend.
Non, toi par contre, avec les électrodes, c'était au pif.
Un peu du pif, enfin, tu vois, c'est pas une chance exacte. Tu vois,
c'est faut apprendre. Tout instrument mérite d'avoir une phase d'apprentissage.
En tout cas, on invite nos auditeurs et nos spectateurs à se renseigner.
Vous dites ça parce que vous l'avez testé, cet instrument?
Non, pas du tout.
Parce qu'il a été, il a fait une tournée cet été là, en festival où le public pouvait le tester.
Ok.
Voilà, je croyais que...
Donc on est d'accord, on connecte ça directement avec des électrodes et ça permet de produire du son avec normalement notre cerveau qui agit.
En fait, j'ai travaillé sur l'élaboration d'un instrument de musique qui se joue que par le regard et la pensée. C'est un instrument qu'on peut pas jouer avec les mains. Et donc en gros, on a utilisé une technologie, une start-up qui permet de déclencher des cibles par le regard. Et via un casque qui est connecté à son cerveau. Et ce casque envoie aussi des signaux EEG de son activité cérébrale qu'on a assigné à des caractéristiques du son. Donc en temps réel, le son évolue et n'est pas le même selon l'utilisateur. Et on joue de cet instrument, donc avec ce son qui évolue tout le temps. J'ai fait une tournée avec cet instrument il y a 2 ans, en jouant sur scène. C'était assez marrant.
T'arrives à reproduire d'une séance à l'autre le morceau en pensant au même truc ou en regardant de la même manière?
On cadre un peu. Du coup, sur scène, on est obligé un peu de contenir cet instrument. C'est un instrument que j'ai appelé Jill, J-I-L, qui est un prénom non genré, c'est l'instrument du futur. Et je trouvais ça important de lui donner un nom, parce que c'est un instrument qui a une personnalité très, très forte, et qui n'exécute pas toujours les ordres de son joueur. Voilà, mais c'était une expérience assez excitante et on travaille sur une version 2 là dans les mois à venir.
Mais pour revenir à cette idée de molécule, c'est le mec qui expérimente. Et parfois même, est-ce que le concept autour d'un album, le voyage autour d'un album, éclipse pas la musique en elle-même? Il n'y a pas ce risque quand même parfois?
Alors le risque, il est de nos jours, il est partout, à chaque coin de rue.
Non, mais tu sais, on peut dire que ça fait chier au bout d'un moment, non?
Ben, alors, c'est vrai que tu parles de l'étiquette. C'est assez paradoxal parce que je pense que dans une carrière, c'est un des premiers objectifs, c'est d'avoir une étiquette. C'est-à-dire qu'on arrive
identifiable,
identifiable et qu'on puisse résumer un projet, un artiste très rapidement en une phrase.
Pour attirer l'attention des gens.
Pour pouvoir en parler. C'est important parce que ça permet d'exister en fait. Un simple nom. Je pense que c'est quelque chose d'important d'avoir une étiquette. Après, effectivement, quand on a une étiquette, naturellement, on a peut-être envie de prouver qu'on n'est pas que ça. C'est aussi assez naturel de penser ça. Mais en soi, je pense que l'étiquette, il faut l'accepter, il faut la nourrir avec parcimonie. Dans mon cas, j'ai une étiquette assez marquée et j'aime bien prendre le contre-pied. Donc souvent, ça m'amène à faire des projets un peu là où on m'attend pas. Ce dernier album en est un bon exemple. Et effectivement, le point de départ aussi de cet album, hormis l'envie de rencontrer ces artistes jamaïcains, ces artistes français, de faire un album de collaboration, un album de studio qui étaient des choses qui étaient assez ancrées et profondes en moi, j'avais aussi le désir de faire un album où la musique est au centre. Un album de partage plus simple, plus direct, plus spontané, moins intello, moins cérébral. Moi, je l'analyse comme ça, mais peut-être aussi tout simplement pour emmagasiner de l'énergie, lâcher un peu comme ça les choses et pour mieux repartir, en fait. Mieux repartir en solitaire, mieux repartir dans le froid, loin, profond, en haut, partout. Mais voilà, c'est une carrière, quand elle s'inscrit dans le temps, premier album en 2006, on est en 2023, y a des phases. Et ces phases-là, je pense qu'elles sont à l'image de la vie. On reste pas, en tout cas, dans un carcan et enfermé. Je pense que c'est très compliqué de faire toujours la même chose et de rester là où on nous attend.
Ce que je vous propose, c'est de passer à la toute dernière partie où on parle un peu plus carrière. Et peut-être pour faire le lien avec cette dernière discussion, et après je te laisse la parole, Da, si tu as des questions autour de l'aspect carrière. Est-ce qu'il y a ce risque que le concept prenne le pas sur la musique? Il y a un autre risque, je pense, c'est que ça devienne du marketing. De dire, bah voilà, ça c'est mon truc. Et presque, je m'envisage presque comme une marque où moi j'ai une recette que je réplique à chaque fois. Et d'ailleurs, ça me permet d'avoir un peu de couverture médiatique, etc. Est-ce que tu es d'accord avec ce risque potentiel?
Alors, je pense pas que ce soit un risque.
Ouais.
Moi, je suis à un stade où j'aimerais peser. J'aimerais qu'on me déploie le tapis rouge et qu'on me fasse des propositions de contrat, que je n'ai qu'à les accepter ou pas, d'avoir ce choix-là. Moi, je suis à un stade où les projets que je mène, je me bats pour convaincre. Je me bats pour trouver les bons partenaires. Donc c'est à la fois difficile et à la fois c'est une liberté. J'ai la chance de jamais eu à voir ou à une petite période dans ma carrière, mais jamais eu vraiment de contrat lourd et long. Mais voilà, la liberté, l'indépendance, ça a un prix. Et ben le prix, c'est qu'il faut lutter à chaque projet. Et voilà, j'ai la chance aujourd'hui d'en vivre très convenablement. Mais dès que je réfléchis à un projet, il faut trouver de l'argent. Il n'y a pas de réserve pour ça. Mais ce dont tu viens de parler, je pense que c'est un problème de riche. Et les problèmes de riches, moi j'attends que ça en fait.
Ben, si t'as des questions, c'est parce que j'avais un peu monopolisé la parole.
Non, c'est très... Justement, depuis le début, c'est vrai que toi, Salman, t'es plus dans l'artistique pour l'artistique, ou tu vois le...
C'est un puriste.
Ouais, c'est ça.
En plus, faut prendre... Moi j'essaye aussi de créer des discussions. Au-delà de mes avis perso, etc.
Non, mais ce que
c'est mon métier.
Ce que j'entends de la part de Romain, c'est justement que vas-y, vive le mainstream en fait. Mettez-moi dedans si vous voulez. Du moment que ça me permet de financer mes trucs, let's go. Tu vois,
Tu vois, c'est... Non, mais alors ouais. Là, on parle d'autre chose. On parle de se travestir sa vraie nature pour avoir des objectifs marketing. C'est deux choses très différentes. Moi, à aucun moment je travestis
Non, mais
un
c'est
projet.
De rendre plus commercialement recevable. C'est pas du travestissement, tu vois.
Ben, c'est pas...
Il y a un équilibre à trouver.
Ouais, mais tout est question d'équilibre, hein, de toute façon. Mais c'est dire, voilà, toi, tu fais ton truc, t'as ta vibe, t'as ton délire, et tu te rends compte que pour que ton délire à toi plaise à d'autres, t'as juste peut-être quelques trucs à juste modifier un tout petit peu pour le rendre... accessible au plus grand nombre.
Tu
le fais, c'est pas du travestissement.
Un featuring avec tel mec, par exemple, que tu sais qu'il pèse en ce moment, et puis on te le suggère fortement. C'est pas forcément lui vers qui tu te serais tourné, mais tu te dis, allez, ça peut aider l'album, je le fais.
Non.
Ok.
Alors ça, non, par contre, jamais. Jamais. Après, une opportunité de collaboration à un moment donné, si ça match, si c'est cohérent et s'il y a de l'envie, à fond, ça s'appelle de l'intelligence, de saisir des opportunités qui peuvent arriver, d'avoir une réflexion sur comment remplir sa tournée, comment vendre des disques. Ça fait partie des réflexions qu'on a, et ça flirte avec le marketing à certains moments.
Bah, ça en est même, oui. Oui. Parce que là, on n'est plus dans la création pure, on est dans comment on la transmet. Donc
Mais ça, en fait, c'est la communication. C'est comment on communique sur un projet, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait. Et moi, je sais que je reste toujours là, sur ces questions-là, totalement intègre et hermétique à tout travestissement de l'élan artistique originel.
Ouais, voilà. Toi.
Moi.
Par exemple,
non, mais pour ça que j'en suis là.
Voilà, tu peux avoir un manager qui lui se dit bon, ok, l'intégrité c'est bien, mais quand même,
les sous c'est mieux.
Ouais, ça serait bien d'avoir un peu des deux, tu vois.
Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est j'ai du mal à employer le mot manager. C'est pas un manager dans ce sens-là. C'est quelqu'un qui m'épaule, avec qui on organise les choses et avec qui on réfléchit ensemble. Mmh. Mais c'est pas quelqu'un qui est là pour l'argent. Voilà. C'est, aujourd'hui, le projet Molécule génère de l'argent. Très convenablement, et c'est cool, et c'est déjà quand je regarde mon parcours un peu en arrière, d'en arriver là aujourd'hui, c'est une très grande fierté, même si voilà, il n'y a jamais eu d'explosion, mais faire des choses de manière indépendante et libre, et des projets assez fous, d'arriver à les monter et de les faire vivre un peu aux quatre coins du monde, c'est un accomplissement déjà énorme.
Il y a un élément qui est transversal un peu avec ce dont on parle, qui est celui de l'entourage d'un artiste. Alors on parle de manager, ou c'est pas le bon terme, enfin bon, en tout cas de quelqu'un voilà, qui t'accompagne dans ta carrière. Et puis aussi les labels, évidemment, parce que eux, c'est les personnes à même potentiellement de mettre des sous en avance pour pouvoir créer un projet, etc. C'est aussi qui peuvent t'aider dans une vision derrière de la distribution, éventuellement pour tourner, etc. Et mine de rien, un label peut changer les choses aussi sur l'accès à un public plus large, à plus de sous, etc. Et il y a un moment marquant quand même dans ta carrière, c'est qu'à un moment, tu travailles avec Headbanger, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on est quand même à la frontière, non pas du mainstream, parce que je ne pense pas qu'il fasse de la musique mainstream, Headbanger, mais en tout cas d'un label qui a le vent en poupe, qui a potentiellement des opportunités économiques. Pardon. Oui, tu penses que Headbanger, c'est mainstream?
Ouais.
Enfin, il y a plusieurs propositions chez Headbanger, certains trucs plus ou moins mainstream, mais t'as raison, il y a des gros tubes, etc.
La formation en elle-même, tu dis Headbanger, tout le monde
c'est vrai.
Écoute de la musique, dit bah oui, même s'ils n'écoutent pas tout ce qu'ils produisent. Donc, ils savent les situer, quoi.
Donc il y a eu quand même un moment où t'as flirté avec ça. Biko, c'est pas rien aussi, c'est quand même une belle maison. Mais tu sens que ça s'est pas transformé comme tu le voulais sur le côté on est tranquille, je veux un projet, je trouve l'argent, etc. Qu'est-ce qui a fait que ça a pas. Tu vas choper le truc encore au-dessus qui te permet d'être tranquille à ce niveau-là?
Bah, je suis assez tranquille à ce niveau-là. Ouais. Je sais pas la vision que t'as d'un label. Ouais. Mais en fait, c'est des partenaires.
Tu surestimes son impact?
Non, mais c'est des partenaires. C'est des partenaires avec qui on a fait un bout de chemin ensemble. C'est des partenaires qui seront peut-être encore des partenaires sur des projets à venir. Il y a je pense que c'est une réflexion. C'est un peu la vie qui fait que aussi chacun a ses emplois du temps. C'est des moments. C'est à certains moments. C'est une envie commune. Voilà. Parfois ça se fait. Parfois ça se fait pas. Parfois on a envie de faire les choses un peu autrement. Parfois on a envie de travailler avec d'autres gens aussi, de pas s'enfermer. Moi j'aime bien cette liberté. Je pense que elle est parfois un peu dure à vivre parce que faut être un peu au four et au moulin tout le temps, faut se battre sur plein de sujets, mais en même temps elle permet d'avancer au gré de ses envies,
c'est ça qui est important.
De dire non. Et puis il faut savoir que tu parles de niveau, d'être à l'abri, tout ça. Je pense qu'en fait c'est une lubie, ça. Je pense que t'es jamais à l'abri, t'en veux toujours plus. Être plus haut, ça veut dire jouer dans un game où les règles, elles sont différentes. Ça veut dire jouer avec des partenaires médiatiques différents. Ça veut dire que la voix assez posée que j'ai ce soir, elle passerait sans doute pas à 19h en prime sur TF1. Ça veut dire que il faudrait peut-être que je m'aille. Enfin,
tu changes de style.
Il y a plein de choses. Le fait d'être indépendant et d'être qui on est et d'assumer toutes les facettes de ça, ça a pas de prix en fait. Voilà, j'ai des objectifs, je suis ambitieux, mais je les situerai pas sur travailler avec une grosse maison de disques et de passer à la Star Academy ou d'être jury. Voilà, je connais des gens qui le font ou qui l'ont fait, et pour rien au monde, j'aimerais leur vie.
C'est beau.
Sur
oui, bah, ouais, je trouve ça beau.
C'est triste. peut-être aussi.
Non. Moi, à titre personnel, je respecte beaucoup justement ce.
En fait, c'est de savoir ce qu'on veut. C'est surtout ça.
Bien sûr.
Si les gens veulent autre chose, si les gens veulent la Star Academy, c'est cool. Mais
et
ça,
faire du mainstream, c'est un vrai talent.
Mais
aussi.
Oui, non, mais voilà.
Ça, on le défend. Ça, on le défend régulièrement dans cette émission.
Bien sûr. Moi, je trouve ça cool. Enfin, pour moi, la vie d'artiste rêvée, justement, c'est ça. C'est-à-dire avoir suffisamment pour vivre tranquillement. Mais aussi décider de faire la musique que t'as envie de faire, comme t'as envie de la faire, au moment où t'as envie de la faire, et de pas avoir de pression. Je trouve ça super, super intéressant, comme, plutôt que d'être une personne, tu vois, adulée par les foules, où les gens s'évanouissent à ton concert, mais où au final, t'es victime de ta propre machine, tu vois.
Puis la notoriété, quasiment tout le monde qui atteint un certain stade de notoriété va te dire surestimé de ouf, voire machine à malheur.
Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça, exactement.
Parce que tu disais que tu tirais quand même des revenus convenables avec ton projet Molécule. On ne veut pas de trucs précis et tout, mais tes sources de revenus, j'imagine que ça vient, la diversification est un élément essentiel. C'est ce qui ressort souvent de nos discussions avec les artistes. C'est, tu pioches un peu des trucs à droite et à gauche, les streams, les lives. Qu'est-ce qui te permet de vivre correctement avec ton projet ?
En musique électronique, c'est compliqué. Il y a un vrai souci médiatique et un vrai souci de radio en France, ce qui n'est pas le cas... notamment en Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne, la musique électronique ne passe pas sur les antennes. Donc ça génère très peu de revenus de droits d'auteur, de SACEM. Oui, c'est multiple. C'est un peu de droits d'auteur, un petit peu de vente d'albums. C'est surtout le live, les DJ sets, les projets... les projets que je mène, je dirais un peu spé, un peu commande. Ça m'est arrivé de travailler pour des marques, de faire des événements pour des institutions, des musées, des créations pour l'Orchestre National de Lille récemment. C'est une multitude d'activités. Mais le créneau... standard, radio, vente de disques, c'est clairement pas moi ma grosse source de revenus, c'est pas le.
Oui, tu le disais, fort. En plus, tu te permets de sortir des disques et de même pas les mettre sur les plateformes. Donc c'est quelque part.
Et je me permets effectivement même cette idée un peu fantasque de sortir des disques en édition très très limitée pour les rendre un peu rares, un peu uniques. Moi j'aime bien la notion d'objet dans la musique, je suis un peu de la vieille école. Et du coup le stream, y a un côté surconsommation, il y a un peu ce truc-là. Il y a quelques années j'ai eu une sensation que j'avais jamais connue, j'étais sur Netflix... Ouais. Et j'ai passé une demi-heure
à chercher quoi regarder.
À chercher un truc. Ouais. Et mes souvenirs d'enfance, on voyait la bande-annonce du Père Noël est une ordure dans 2 semaines à la télé. On l'attendait à ce moment-là pour pouvoir le voir parce qu'on l'avait pas vu depuis un an. Ou je prends le Père Noël est une ordure, c'est pas très glorieux culturellement.
Au contraire.
Ou d'un Hitchcock ou d'un Kubrick.
Non, mais c'est une des meilleures comédies françaises, donc bien sûr.
Et là, t'as tout, tout le temps.
Ouais.
Ma discographie, quand je suis pas chez moi, je l'ai pas, je fais avec ce qu'il y a, et il y a ce truc là dans la musique où ce jukebox géant où tout est là, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Music, il y a un côté boulimique en fait qui est compliqué, et j'aime cette idée aussi de, on parlait de mes premiers albums qui sont bizarrement encore accessibles, mais normalement ils le sont plus actuellement et je les remettrai à un moment.
Mm-hmm. Est-ce que tu as récupéré les droits, ils étaient sortis avec un producteur
sur d'autres maisons de disques, et j'ai tout récupéré et peut-être refaire des pressages, les ressortir en vinyle. Ils sont jamais sortis en vinyle. C'est des questions qui se posent, mais effectivement le streaming, ça, on le voit bien aujourd'hui, il y a tellement de sorties, il y a tellement de choses que la musique a un peu perdu de sa valeur. T'attends plus un album d'un artiste comme tu pouvais l'attendre avant, parce qu'il te met des teasers, vidéos, des trucs avant. T'as déjà presque tout écouté en fait avant. Il y a un côté un peu indigeste en fait. Et je suis adepte un peu de la décroissance. Ça va peut-être un peu loin, mais en tout cas d'appuyer un peu, de ralentir les choses et de...
Oui, là, il y a eu une frénésie de conso et...
Oui,
ouais. Enfin, on commence à en sortir un petit peu aussi, tu vois. Notamment, bah, par exemple, non, mais tu vois, sur le, tu parlais de Netflix, maintenant, toutes les plateformes qui te sortent une série, avant, elles te sortaient tous les épisodes en one shot et tu pouvais les binger sur deux jours. Maintenant, ils te sortent des épisodes chaque semaine. Tu vois, ils reviennent à un mode aussi de.
Oui, mais ils vont te sortir trois séries en même temps, tu vois.
Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont compris aussi que, bah, ils... bourriner pour bourriner, ça sert pas à grand chose, en fait, parce qu'effectivement, ça va être vite consommé, vite oublié, tu t'en rappelleras même plus. Donc, créer des petites attentes sur, ah, bah, la nouvelle série, là, tous les épisodes, ça sera chaque mercredi, tu vois, tu dis, ok. En fait, tu reviens à ce truc de, il faut être présent au moment...
Un peu de frustration ne fait pas de mal.
Ouais, c'est ça, exactement.
Ça va te plaire, ça, toi, le sacrifice, se faire mal, la frustration. T'aimes bien tout ça.
J'ai fouetté avec des orties, c'est ça, hein.
Ça fait quel son, ça?
Ah, ah, et le bruit de l'épine de l'ortie qui rentre dans l'épiderme.
Ah, creusé, tiens.
Ouais.
Je pense qu'on a fait un beau point, les amis.
Ouais.
Ce que je suggère, c'est normalement, on termine toujours cette émission avec des recommandations musicales. Mm-hmm. Mais plutôt, si ça te va, Daz, mm-hmm. on termine avec un ou deux morceaux de Molécules, parce qu'il y a des albums qu'on n'a pas explorés, on n'a pas pris des exemples de celui, par exemple, enregistré au Groenland. et puis peut-être un deuxième, peut-être deux morceaux, allez, tu vois, que tu as envie de mettre en avant, Romain.
Allez hop. Ça fera plaisir à ça.
Peut-être, parce qu'on a pas mal parlé quand même de...
L'album qui est sorti il y a un mois, on le rappelle. Olympia, le 7 février, merci.
Bon, on l'a à peine dit.
On l'a à peine dit, c'est vrai, on le répète, c'est bon, ça a été dit. Non, peut-être pas les trucs du dernier album, parce que je crois qu'on a mis deux ou trois extraits déjà. Ouais. Mais ouais, un de moins 27.7, de moins 22.7, j'ai envie de dire 27.
Bref,
moins 22.7, et puis un autre dans l'autre projet, ce qui te fait plaisir.
Oui, ben on a parlé des bugs. On peut mettre le morceau Artifacts, ouais, qui a été fait,
oui.
Où il y a un solo de Larsen de micro.
Trop bien.
À cause de du froid sur la capsule.
Allez, Artifacts.
Là, oui, on a déjà entendu des petits bugs.
Tu nous diras quand il y a le solo de micro.
Il faudrait que tu avances un peu.
J'avancerai.
C'est vers 2 minutes 30, je pense.
J'avance un peu alors.
C'est tous les petits bruits qu'on entend déjà depuis le début. Hein. Le charlet a été fait aussi avec un bass. Mais là, ces voix, c'est effectivement la capsule d'un micro qui génère ça.
Ça, c'est cool.
Bon, moi, j'y suis au Groenland, j'y suis. T'as envie de mettre en avant un autre morceau de ta discographie qui te tient à cœur?
On a mis... Bah, on peut finir. Tu.
Il y a un signe là-bas, je sais pas c'est quoi.
Le surf.
Ah ouais, Nazaré. Oui.
Sur Nazaré.
On peut mettre effectivement Praia de Norte.
Ah. Et tu sais quoi, en plus, il y a le club Edit, on met celui-là, on est un peu plus bouncy, ou tu préfères.
Ah, il est pas plus bouncy, il y a juste 16 mesures de beats avant pour pouvoir être mixé.
C'est marrant, je le sens. Alors, c'est que je suis pas tombé sur les bons moments dans le premier Edit.
C'est le même mix, ouais.
Bon, alors on met l'original? Enfin, la première version.
Ouais, si tu veux.
D'où?
Ben là-bas, là, derrière le cahier.
Oh, ça va. Si t'as pas de place. Hé, Marine, elle se pousse. On dirait la montagne.
C'est qui, tous ces gens?
C'est les surfeurs avec qui j'ai collaboré sur ce projet où je leur mettais des micros un peu partout. Et chaque session se terminait par au bar du coin, en bas. Et voilà, on débriefait de la journée. C'était des moments assez chouettes.
We'll be right back.
On aurait pu s'arrêter aussi là-dessus, mais Nazaré au Portugal, avec parmi les plus grandes vagues du monde.
20 mètres.
20 mètres de hauteur, et bah, tu as cherché un moyen à capter le son de ces vagues de 20 mètres de hauteur, au cœur de ces vagues.
Ouais, tout à fait.
Ouais. Bon, y a,
c'est un épisode de Thalassa, ça ouais.
Non, il y a un film qui a été fait qui est sur MyCanal en ce moment.
Même. Ah oui, c'est
Sounds, ce que tu disais, Sounds of Surfing. Ouais.
Sounds of Surfing, d'accord. Très bien.
Merci beaucoup Romain Molécule d'avoir participé à cette émission.
Bah, c'était un plaisir. On est bien chez vous. Hein.
Ouais, c'est pas mal.
On est pas mal. Hein.
Il reste des bières dans le frigo.
Oui, il reste des bières. Okay. On va s'en ouvrir une.
Oui.
Daz, merci beaucoup.
Merci, c'était cool comme d'hab.
Ouais. Merci à Flav et Sam aussi pour bien la technique sûr. Ce soir. Merci Sayem aussi d'avoir fait le lien avec Romain.
Et oui, le plug.
Merci à François aussi pour, le montage. D'ailleurs, François, que j'ai remercié dans l'épisode précédent, mais qui n'a pas été monté par François au final.
Et qui l'a fait ?
Eh bien, c'est la boucle.
Ah, mais oui, c'est la boucle.
Oui, parce qu'il y a un truc. C'est la tambourine.
Ah, mais oui, bien sûr.
Donc, mais merci quand même, François. Il faut toujours remercier François.
Ouais, merci
c'est lui
François.
Qui nous monte.
Il peut faire plein de bêtises avec ce qu'on raconte.
Donc, il faut toujours être sympa.
Merci François, mais merci Flav alors, du coup.
Oui. Et attendez, mais qui donc ?
Ah, Iris. Merci Iris.
Mais je l'ai pas vu, moi, Iris.
Non, elle était pas là aujourd'hui.
Mais elle a quand même aidé. Mais là,
elle qui a fait le montage la dernière fois.
Ah, mais c'est vrai. Le
voilà.
Et ben merci Iris aussi.
Voilà, merci Thoman.
Merci la vie, merci le monde, merci les gens, merci. Merci Thoman évidemment.
Bien sûr.
Pour tout ce beau matériel, tu achètes chez Thoman ?
Ça m'arrive, mais pas que.
Eh ben, il faudrait
c'est
que
pas
que
la
ça
bonne
soit...
réponse. Ouais. On recommence.
J'achète tout chez Stars Music.
Oh non ! On ne t'invitera plus jamais. Non, mais tu peux acheter dans des magasins moins bien, c'est ton choix.
Oui.
Thoman reste les meilleurs. En tout cas, qu'est-ce que tu vois, j'en arrive à faire des choses comme
tu
ça.
Tu vends ton âme au diable.
C'est terrible, c'est terrible.
Tu vends ton man au diable.
Non, mais écoute, Stars, ils ont qu'à me payer s'ils veulent que je
On va s'arrêter là.
C'est horrible, c'est horrible. Qu'est-ce que je deviens, Baz? On se retrouve dans 15 jours. Ciao.
Ciao.